Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er juin 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 2, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir. On a bien résisté, hein.
Résistons. Ah, oui, ça, pour résister, on est les champions.
On était contents. En plus, enfin, c'est vrai, c'est un vrai bonheur, Marquis.
Dans le camp des vainqueurs.
Pour une fois.
Ça fait tellement, depuis 40, ça fait pas arriver.
Ouais, exactement.
Moi, je suis né en 46, je précise quand même, donc je suis pas très concerné. Mais enfin, en tout cas, ça m'est pas arrivé depuis longtemps d'être dans le camp des vainqueurs. Et non, puis alors il fallait voir leur tête, c'était un vrai bonheur.
Un vrai bonheur.
Et je pense que dans la foulée, d'ailleurs, on n'aura pas les Jeux Olympiques de 2012.
Oh, chic alors.
Hein, donc c'est la réussite. Hein,
un bonheur n'arrive jamais seul.
Autour de ce micro, Victoria, que vous venez d'entendre la belle voix de. Ça va?
De. Ça va bien.
Ça va bien.
Oui, oui.
Bon. Goffman.
Présent, bonsoir Serge de Bequette.
Toujours fâché?
Toujours facho.
Mais quand il est présent, on n'a pas entendu les talons claquer.
Il est assis, il ne peut pas.
Et vous n'avez pas dit la belle voix de Patrick Goffman?
C'est vrai qu'il a une belle voix, Patrick.
Il a une très belle voix.
Le marquis Chérigues de Olmeta.
Qui n'a pas une vilaine voix non plus, enfin bon.
Mais qui est modeste dans l'expression.
Qu'est-ce qu'on fait, on parle des voix des gens ou on fait une émission?
J'entends des voix.
Et puis, alors les invités.
Oui, quand même.
Nous allons nous entretenir avec le docteur Jean-Pierre Masqui, qui a écrit un bouquin passionnant. J'en parle depuis longtemps du docteur Masqui, d'abord parce qu'on se connaît depuis, enfin on a été en contact il y a 20 ans, quand j'étais encore dans un journal recommandable, puisque j'étais directeur de la rédaction de Minute, c'est dire.
Parlons-en.
Et donc, ça fait très très longtemps, donc on se connaît, et ça fait longtemps que je m'intéresse à son travail, d'autant qu'il fait partie de ces gens que j'aime bien, qui sont des gens qui meurent pour leurs idées, ou qui se battent en tout cas pour leurs idées, qui mettent leur peau, non, vous n'avez pas l'air du tout de quelqu'un qui va mourir, mais qui mettent leur peau au bout de leurs idées. Et son idée, c'est que Une des grandes causes de mauvaise santé, c'est la pollution électromagnétique. C'est-à-dire que, comme tous les précurseurs, il a eu 30 ans avant tout le monde, ou 40 ans avant tout le monde, puisque vos premières intuitions, c'est de début des années 65. Voilà. Donc ça fait exactement 40 ans. Nous recevrons ensuite, j'indique tout de suite, parce qu'on va en reparler, mais je préfère le dire dès maintenant pour ne pas oublier, que le docteur Masqui sera naturellement dimanche à la signature des livres à la fête du livre de Radio Courtoisie à Eurosite Austerlitz. En face d'Austerlitz, parce que Eurosite maintenant ça fait bon. Enfin bref, on va pas retourner les couteaux dans les plaies. Il sera là le dimanche, mais on a pensé que peut-être certains auditeurs, certains amis ne pourraient pas se libérer le dimanche. Et donc, on a proposé à nos amis de la librairie France Livre, Monsieur Jacques-Claude, de recevoir le docteur Masqui pour une signature le samedi. Donc, il signera également avec un autre invité de ce soir, qui est Jean-Pascal Cerbera, son livre. Le docteur Masqui signera son livre samedi après-midi aussi, à la librairie France Livre, à partir de quelle heure vous avez ça en tête? De 15 à 18h. Voilà, 6 rue du Petit Pont, 15h à 18h. Mais vous pourrez le voir, bien entendu, dimanche, avec 400 autres auteurs. C'est quand même formidable. 400 auteurs qui vont venir signer leur bouquin.
Et puis, il y a la conférence de...
Et puis, alors, vendredi soir, le docteur Masqui donnera une conférence sur ce sujet. Et bien qu'il n'aime pas trop qu'on circonscrive son sujet, son livre, ses préoccupations à ça, je pense que c'est... je lui demanderai de parler plutôt, enfin d'insister plutôt sur un des aspects, une des conséquences de la pollution électromagnétique les plus immédiatement visibles en ce moment, qui est la sclérose en plaques. Je sais que quand j'ai annoncé ça récemment à la radio, j'ai eu beaucoup d'appels ensuite de gens qui m'ont dit « mais c'est très intéressant, on a des amis, moi-même je souffre de sclérose en plaques, etc. » Donc je demanderai au docteur Masqui vendredi soir de répondre aux questions des gens qui voudront venir à cette conférence. Hein. Alors c'est rue Saint-Joseph, au numéro 12, au centre Saint-Paul. Voilà, donc pour l'instant on va parler de son livre. Également, nous aurons un petit entretien avec le père Argouache qui vient nous rendre visite avant de célébrer son de venir célébrer son, comment on peut dire, 2/5 de jubilé sacerdotal. Ça fait 20 ans que vous êtes prêtre.
20 ans de sacerdoce.
C'est quoi? C'est pas un jubilé, c'est
non, normalement
c'est un 2/5 de jubilé.
Comme j'ai été retardé pendant très très longtemps au sacerdoce, j'ai devancé les 25 ans.
Vous étiez un enfant retardé déjà. Il est beau, il a l'air en pleine forme.
Hein, il est fraîcheur, magnifique,
il est fraîcheur. Des fois, il a l'air épuisé, mais là, enfin...
Moi, j'ai envoyé une photo sur la route de Chartres.
Ah oui, c'est ça.
J'ai fait quelques acrobaties.
Ah oui, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai.
Personne n'y croyait. Un vieux monsieur comme moi, personne ne croyait que je serais au troisième étage. Il y avait une foule formidable de jeunes.
Ah oui.
C'est l'avenir de l'église.
Pèlerinage ou lifting?
Pèlerinage. C'est plus économique. Bien, avant, une petite évocation de l'actualité. J'ai eu tout à l'heure au téléphone mon excellent camarade Ratier qui m'a envoyé un texte. J'avais complètement oublié ça. Vous vous souvenez que Chirac avait dit quand il a été question que Sarkozy prenne la tête de l'UMP, il avait dit on peut pas être à la fois ministre et président de l'UMP. Alors, je me souvenais de ça, mais pas du détail. Et Ratier m'a envoyé un truc qu'il va publier prochainement dans Faits et Documents. Mais il m'a autorisé à vous en livrer la primeur. Il rappelle une conversation, une interview de Chirac. Alors voilà, Chirac, donc je vous dis, moi, ce qui me concerne, en revanche, c'est le bon fonctionnement de l'État et donc du gouvernement. Comprenez bien que si vous avez un Premier ministre qui a un ministre par ailleurs président du principal parti de la majorité, ça veut dire en clair que vous n'avez plus de Premier ministre. Ça, c'est pour Villepin, ça. Il démarre bien, Villepin, il va être content de le relire, ce truc-là. Évidemment, parce que la décision, elle est celle du président qui s'impose, alors qu'il y a un Premier ministre. Et par conséquent, on touche là au bon fonctionnement des institutions, et je dirais à l'efficacité gouvernementale, à cette solidarité, à cette collégialité dont je parlais tout à l'heure. Voilà un mec qui... fait exactement, mais exactement ce qu'il a défini il y a quelques mois comme une atteinte au bon fonctionnement des institutions, à l'efficacité gouvernementale, à la solidarité, à la collégialité. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais il est malade, enfin.
Ça vous rappelle pas l'appel de Cochin? D'une façon générale, pourquoi chercher des arguments contre Chirac? Il nous les fournit. L'appel de Cochin, nous l'avons reproduit dans le Libre Journal en feuille volante, en couleur. Il a été reproduit à des milliers d'exemplaires par nos abonnés, reproduit par nos confrères de National Hebdo et de Rivarol, et sur une affiche de Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, député UMP souverainiste, et je pense qu'il a joué un petit rôle dans la campagne.
J'espère.
Concernant le Chirac, les feuilles ne peuvent être que volantes.
Alors, le journaliste lui pose une question. En revanche, le Premier ministre peut devenir président du parti majoritaire. Chirac. Le Premier ministre, c'est une tradition, c'est vrai dans toute l'Europe. Le journaliste, vous l'avez été vous-même. Chirac, écoutez, il est incroyable, vraiment. Ouais, mais je ne mettais jamais les pieds à ce moment-là au parti que je présidais. Tout le monde le savait. Enfin, c'est mais il est invraisemblable, ce bonheur. Mais le Premier ministre, qui, comme dans toutes les grandes démocraties, est le chef de la majorité, il a naturellement vocation à être le président. C'est pas le cas d'un ministre. Car, je le répète, un ministre président du principal parti de la majorité, ça veut dire que le Premier ministre n'a plus aucune autorité. Et par conséquent, pour répondre à votre question, si tel ou tel ministre, car il y en a plusieurs, il me semble, intéressés, si tel ou tel ministre veut se lancer dans la campagne, s'il est élu président de l'UMP, il démissionnera immédiatement. Ou je mettrai fin à ses fonctions. C'est dans l'intérêt de nos institutions, c'est pas un problème personnel.
Et le ministre des élections, ministre de l'Intérieur,
ministre des élections,
en particulier.
Et annoncé par le Chirac lui-même.
Il doit être content. Alors là-dessus arrive un sondage. Un sondage, je ne sais pas qui d'ailleurs, c'est pas bien indiqué. 55% des Français considèrent que Chirac est durablement discrédité par le rejet du traité constitutionnel dans les urnes.
À ce propos, Serge, vous me permettez d'ajouter quelque chose?
Ouais, allez-y.
Ce qui me paraît le plus inquiétant pour lui, c'est la réaction du quotidien de l'économie, Les Échos,
oui, c'est
du lundi 30 mai. Tout le monde a pu le voir dans les kiosques, avec une une assez neutre. Référendum, le choc, le nom l'a emporté, etc. Une photo assez flatteuse de Chirac. Mais dès qu'on tournait la page, et qu'on arrivait donc en page 3, on lisait ceci, donc dans la page 3 de ce quotidien économique. Un échec cinglant pour le président Chirac, 8 ans après la dissolution ratée. Gros titre. Légende de la photo. 10 ans après son accession à l'Élysée, ce nom jette une lumière terrible sur le bilan de Jacques Chirac. Et en bas de cette page, Fabius, Le Pen et Villiers, les grands gagnants du référendum. Voilà ce qu'écrivaient Les Échos lundi 30 mai au lendemain du référendum. Je crois que c'est terrible pour Chirac, parce que s'il a les milieux économiques à dos, qu'est-ce qui va lui rester comme supporter?
La justice. Les milieux économiques.
Bernadette.
Il y a Bernadette, oui, paye encore ses
mains. Alors, c'est son dernier supporter.
Mais alors, il y a, je crois qu'il y a un type.
Pas vif,
qui aime tellement.
On lui demande pas de donner.
Un type qui a trouvé une réponse. Alors, il faut quand même que je vous révèle un petit secret.
Ah oui.
Il y a quelqu'un qui a trouvé une réponse tout à fait à la hauteur du personnage. C'est le manifestant anti-Chirac et Villepin. Il a traversé à poil le central de Roland-Garros pendant la partie Pierce-Davenport. Alors les gars se sont jetés sur lui pour l'immobiliser. Vous savez que c'est le même qui avait fait le coup au Sénat?
Ah non, je ne suis pas au courant de ça.
Si, il y a un type au Sénat qui a sauté tout nu, enfin avec un string, au milieu des pères conscrits. Alors pareil, on l'a écarté,
évidemment,
puis on l'a libéré, parce qu'ils n'ont pas pu trouver d'élit à lui reprocher, puisqu'il était en string, il n'exhibait pas ses avantages. Et donc là, il a recommencé, avec son string toujours, il avait peint un nom sur son derrière.
Oh. Il est souple, dites donc.
Enfin, oui, c'était fait aider, je sais pas. Et donc là, il a recommencé. Et alors, j'allais vous dire que je vais vous faire une petite révélation, mais ce jeune homme...
s'appelle
On peut donner son nom, mais ça rendra service à personne. C'est un camelot du roi, c'est un royaliste.
Ah. Voilà.
Et je trouve bien que les camelots remettent au goût du jour le canular, canular pur et simple, qui met l'adversaire exactement à sa hauteur. Ça me fait penser à Daudet, qui, quand il y avait un orateur emmerdant à la chambre, qui arrivait plus souvent qu'à son tour, toujours, mais moins souvent qu'aujourd'hui, il se pointait avec une veste de pyjama et un oreiller qui posait sur son pupitre à la chambre. Voilà.
Ah, c'est bien.
Voilà. Maintenant, il y a de... Il y a d'autres nouvelles qui sont moins bonnes, c'est que les Maghrébins de Perpignan ont trouvé une solution pour régler ce problème dramatique qui quand même crée une difficulté ennuyeuse. Ça devient très difficile de présenter le melting pot, le métissage, la société multiculturelle, la société plurielle comme une réussite totale. Et donc ils ont trouvé la solution, ils ont dit maintenant on va faire comme les Gitans, on va s'armer.
Ah, c'est bien.
Voilà. Alors, la ville, parce que les radios, télévisions parisiennes, enfin, on parle très peu, et les journaux parisiens pratiquement pas du tout, mais à Perpignan, on en parle, vitrine explosée, une cinquantaine de voitures calcinées, rue noire des cendres de poubelles incendiées, camions de CRS garés par dizaines sur plusieurs axes de la ville, etc., etc.
Les
ça
calcinées.
Chauffe bien. La société plurielle marche très, très, très bien.
Les voitures calcinées, c'est quand même logique, Serge, puisque les coups de feu sont partis d'une voiture.
Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez raison. Absolument. Et aucun enfant du quartier n'a été envoyé à l'école hier matin.
C'est-à-dire, ça changera pas grand-chose, hein. Au final.
Ils sont arrivés, et le journal conclut, le journal du coin conclut, en disant de nouveaux renforts étaient arrivés à Perpignan, faisant passer de 300 à 1 millier l'effectif des forces de l'ordre et transformant le centre-ville en forteresse assiégée.
C'est pas grave, c'est nous qu'on paye.
Un ami m'écrit, au Kosovo, ça avait commencé comme ça.
Voilà.
Et tous les chrétiens ont fini par quitter leur village au profit des musulmans, comme les gitans chrétiens qui voient aujourd'hui obligés, pour certains, de se réfugier en Espagne. Voilà.
C'est... Moi, je voudrais avoir la position de monsieur le curé de Perpignan, s'il y a un curé ou un évêque, je ne sais pas, à Perpignan. Les impressions du grand maître de la grande loge de Perpignan, c'est où ils sont, là,
ah non, mais vous les avez, là. Le préfet, le maire, le commissaire principal et le procureur de la République multiplient les conférences de la presse pour appeler en cœur, mais cœur, CH, quand même, au retour à la cohabitation harmonieuse des communautés. Bon, ben, on est sauvés, les gars.
Oui, compte dessus,
un compte dessus, ou de l'autre. Voilà. Et la veille du meurtre du deuxième maghrébin...
Oui, le deuxième, vous avez raison, pas second.
Henri Castet, directeur de la sécurité publique du département, avait dit... La piste d'une rixe entre dealers envisagée un temps a été écartée. Comment est-ce qu'on a pu envisager un truc pareil? Il en vient des idées, vraiment. Et alors, ce qui est merveilleux, ça c'est une question de rédaction de journal... Ils expliquent, donc dans toute la première moitié du papier, qu'on n'a absolument pas la moindre idée des motifs, de qui a fait quoi, pour, etc. Bon. Et la phrase suivante, c'est « Le second meurtre est plus obscur. » C'est-à-dire que le premier est complètement ténébreux, mais le second est plus obscur. Voilà. C'est ça. C'est ça, Perpignan, c'est une jolie ville. Hein. C'est toujours une jolie ville.
Et c'est nous qu'on paye, mais c'est nous qu'on compte les points aussi. Voilà. Hein.
Donc pour les vacances, Perpignan, faites plutôt un détour, hein, si vous voulez mon avis. Moi, à Bagnoul, je vais pas passer par Perpignan.
Et mon ami qui me fait des si belles écharpes, qui habite à Perpignan, là, elle a plus trouvé de fil ni de soie, là, c'est tout a explosé.
Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur l'actualité. Je pense que oui, il n'y a pas grand-chose. Donc si, il y a des choses à dire. J'ai 67 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai gagné...
62.
À 62 ans, c'est la première fois que j'ai gagné une élection. J'ai reverdi comme un cerf au printemps. Il y en a un autre qui a l'air d'un cerf, c'est Chirac,
oui,
mais pas pour les mêmes raisons.
Tu sais.
Et subséquemment, ma femme... Ah bon, bah écoutez, les d'après, il s'agit de détails de caractère personnel, donc
Sarkozy,
on s'étendra pas.
Sarkozy aussi a l'air d'un cerf avec les bois qu'il a sur la tête.
Ouais. D'ailleurs, il faut bien dire une chose, c'est que... Tout le monde se braque sur ce pauvre Chirac en disant c'est une claque terrible pour lui.
Bon.
Mais d'abord, moi, je suis convaincu qu'il s'en fout totalement. Mais non, en revanche, il y a des gens qui ont pris un vrai coup de pied aux fesses. C'est Madame Veil,
oui,
qui s'est déshonorée en trahissant son devoir de réserve de membre du Conseil constitutionnel. Elle est ridicule. Monsieur Jospin, qui s'est déshonoré en trahissant sa promesse de ne plus intervenir sur le terrain politique, la politique c'est fini, je n'en ferai plus, c'est trop dégoûtant et tout. Il s'est déshonoré, il est ridicule. Donc, ce nom, c'est pas un coup de fusil. C'est, je vais pas le dire parce que je suis bien aimé, mais quand j'étais gosse, quand les enfants avaient des taches de rousseur sur le visage, que le saccagé disait, t'as pris un coup de fusil à... Bon. Mm-hmm. Et ben, tous, ils ont pris un vrai coup de fusil à... Mm-hmm. Oui, hein.
Ou comme dit François Brugnot dans le Libre Journal, Raffarin avait prédit le chaos, et en effet, ils sont chaos.
Ils sont chaos. C'est... On a quand même pas beaucoup l'occasion de rigoler, mais celle-là, elle est bonne. Voilà. Docteur Maski, est-ce que vous pensez que la pollution électromagnétique a joué un rôle dans l'énervement des Français?
Elle joue un rôle en permanence. Hein. Là, on est en train de s'électrocuter sans nous en apercevoir.
Ouais, bah, enfin, il faut bien vivre.
On
pourrait monter sur le toit aussi pour crier fort, mais ça ferait pas des émissions très portées. Alors, vous avez écrit donc un bouquin qui s'appelle « La pollution électromagnétique », qui s'appelle d'abord « Combat pour une idée ». La pollution électromagnétique, il est paru chez France Europe Édition, et je rappelle que vous pourrez le dédicacer à la conférence vendredi soir, ou samedi après-midi chez France Livre, 6 rue du Petit Pont, et alors on pourra vous rencontrer, vous parler, toucher, vous voir comme vous êtes magnifique de jeunesse. C'est quand même bon signe, quelques médecins qu'on reçoit ont l'air de jeunes hommes, ils sont en bonne santé. Donc,
j'ai 77 ans quand même.
Ah bah voilà, oui, vous faites 10 ans moins que moi, facilement. Ouais, comme moi je fais 20 ans plus que mon âge, on a compris.
Ce sont les ennuis.
Hein, des cordonniers bien chaussés.
Bien chaussés, voilà.
Non, ce sont les ennuis qui m'ont conservé. La haine que j'ai contre mes adversaires.
Ouais, la haine, ça conserve bien, je connais ça. Alors, au milieu des années 60, vous avez découvert, vous avez eu l'intuition de l'existence d'une pollution à laquelle on ne pensait pas du tout à l'époque.
On ne parlait même pas de pollution chimique.
On ne parlait même pas de pollution. C'est la pollution électromagnétique. Vous étiez médecin généraliste à Nice et vous avez attribué cette pollution à la prolifération des machines, des transports de force, des machines, des appareils électriques utilisant ou produisant de l'électricité, et puis également à l'absence de moyens d'évacuer, parce que c'est ça, c'est un des aspects de votre recherche. Alors, comment avez-vous eu cette intuition?
Je vous présente, je suis né en 1928, j'ai fait mes études à Paris de 45 à 53, et avec ma femme qui est dentiste, nous sommes allés nous installer à Tuléar, une ville du côte ouest de Madagascar, et nous avons exercé de 55 à 62. J'avais une formation tout à fait de médecin allopathe, donc je m'intéressais pas du tout à l'homéopathie, à l'acupuncture et encore moins à la recherche. Ça m'était jamais venu à l'esprit de faire de la recherche médicale. Quand j'étais à Madagascar, encore, je suis tombé une fois sur une revue qui parlait de la biométéorologie. La biométéorologie, c'est une science relativement moderne qui explique un petit peu la raison pour laquelle les personnes, les rhumatisants, les cardiaques, les nerveux, sont des personnes sensibles au changement de temps. Avant les orages, vous avez une accentuation des troubles. Et j'ai découvert que Hippocrate, déjà 4 siècles avant Jésus-Christ, avait constaté ces choses-là. Et puis pendant 2000 ans, les médecins n'en ont plus parlé. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que des physiciens, des médecins se sont intéressés et se sont aperçus qu'il y avait des modifications électriques de l'atmosphère. Et on sait maintenant qu'on a les problèmes des ions positifs qui sont nombreux avant les orages. Et c'est là que les rhumatisants, les cardiaques, les nerveux ont une accentuation de leurs troubles. Par contre, quand il se met à pleuvoir, quand il y a de la neige, les gens se sentent mieux parce qu'il y a une prolifération des ions négatifs. Et maintenant, on trouve dans le commerce des ions négatifs. Si vous voulez, pour moi c'était une découverte, parce que durant toutes mes études, je n'avais considéré, on ne m'avait fait considérer le corps humain que comme une machine chimique. Tout ce que l'on nous apprend, c'est de la chimie. Tout ce que l'on nous apprend à soigner, c'est de la chimie. Quand on fait des examens de laboratoire, c'est de la chimie. Et je venais découvrir, alors que j'exerçais la médecine depuis plus de 10 ans, que le corps humain était également une machine électrique. Pour moi, ça a été quand même un coup assez net. Puis je suis revenu m'installer à Nice en 63, et là, je me suis un petit peu orienté vers la gérontologie, et j'étais rapidement étonné de constater que des gens relativement jeunes avaient des rhumatismes, affections cardiaques, neurologiques. Toujours ces mêmes maladies, affections cardiaques, neurologiques et rhumatologiques. Et j'étais pas le seul à constater ça, étant donné que toutes les enquêtes montraient que ces maladies étaient de plus en plus fréquentes dans les pays industrialisée est toujours peu fréquente dans les pays en voie de développement. Et rétroactivement, je me suis aperçu que dans la clientèle autochtone que j'avais à Madagascar, j'avais une clientèle très variée, français, chinois, indien et les autochtones. Et effectivement, chez les autochtones, on rencontrait très peu de ces maladies dites civilisation. C'était donc deux choses qui me travaillaient. Vous voyez, j'étais pas encore tout à fait persuadé de ce que j'avais. Et puis, avant de terminer mes études, j'ai fait différents diplômes, médecine du travail, médecine aéronautique, hygiène, médecine tropicale. Et une fois, je suis tombé sur une revue qui traitait des complications, des atteintes oculaires déterminées par les accidents électriques. Et dans ce livre, qui était édité en 1957 par le Comité médical d'électricité et de gaz de France, par le docteur Philippe de Saint-Martin, il y avait 40 pages qui étaient consacrées aux complications tardives de l'électrocution. Si vous êtes électrocuté et que vous ne mourrez pas dans les instants suivants, vous pouvez dans les semaines, dans les mois, dans les années qui suivent, faire des complications. Ils appellent ça complications tardives. Et il faut que je vous lise ça parce que c'est quand même ça qui a été pour moi très déterminant.
Ah, ça, c'est pas ce texte que vous allez nous lire. Il est paru en quelle année ?
En 57.
57.
Et c'est l'électricité de France, en plus. Ouais. Alors, c'est un résumé des 40 pages. Alors, au niveau de l'appareil cardiovasculaire, on trouve des extrasystoles, fibrillation auriculaire, syndrome angineux, infarctus du myocarde, crise de tachycardie. Système nerveux, hémiplégie accompagnée d'aphasie, épilepsie, paraplégie pure ou sensitive ou motrice, névralgie cervico-brachiale, sciatique, syndrome parkinsonien, céphalée, cas dont l'aspect clinique évoque la sclérose en plaques, troubles psychiques et neuropsychiques. Altération osseuse avec décalcification ou au contraire construction osseuse. C'est là que...
C'est un tableau clinique et stupéfiant parce qu'on n'y pense jamais à ça.
Ben non, mais demandez aux médecins, mais personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. Ouais. Pour quelle raison je suis tombé sur cette revue?
Parce que vous avez un ange gardien.
Si... Non, comme tout est arrivé, c'est vrai qu'en cours de circonstances ahurissantes dans ma vie, hein, pour cette histoire-là. Donc, quand j'ai lu ça, pour moi, je me suis dit, ce que le corps humain fait en une fraction de seconde avec le courant électrique, suivant les facteurs génétiques de prédisposition chez les uns et chez les autres, on va avoir des rhumatismes, affections cardiaques chez les autres, la pollution électromagnétique va le faire en 10, 20, 30 ans. Et on va obtenir une très lente et progressive électrocution de l'organisme. Ça vous paraît normal?
C'est tout à fait logique, oui, absolument. Oui.
Il y avait aussi une participation personnelle. J'avais des maux de tête. J'avais mystérieusement disparu quand j'étais à Madagascar. Et quand je suis revenu, ils ont réapparu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors, toutes ces choses-là se sont, si vous voulez, mises dans ma tête. Et je me suis dit, quelle différence y a-t-il entre les conditions de vie dans les pays en voie de développement et les conditions de vie dans les pays industrialisés depuis un siècle? Ce sont vraiment les conditions de vie qui ont le plus changé avec l'apport d'électricité. Et tous les appareils qui découlent de l'électricité, qui produisent, pas l'électricité, le courant électrique. Il y a une différence. L'électricité, c'est un phénomène naturel. Sans électricité, il n'y a pas de vie. C'est électromagnétique. C'est les hommes qui, avec Volta, ont inventé la façon de faire du courant électrique. Et à partir de là, c'est tous les appareils qui utilisent. Alors je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font dans les pays en voie de développement? Très souvent, ils marchent pieds nus. Donc étant pieds nus, ils sont à la masse. Et puis je suis parti d'une idée encore plus simple qui fait rire chaque fois que je l'aimais. Que vous alliez dans les maternités ultra sophistiquées ou en pleine brousse, les enfants, comment ils sont? Tout nus. Ils n'ont pas de vêtements. Et les gens qui sont partisans de l'évolution des espèces ne peuvent pas imaginer que dans 1 million d'années, si on continue à mettre des vêtements et des chaussures, à la naissance, il y aura des enfants avec des chaussures et des vêtements.
Mais vous voyez... C'est un argument formidable, ça.
Mais oui, mais... Je l'explique depuis 40 ans et chaque fois c'est la même réaction.
Lysenko pensait le contraire.
Oui, Lysenko
a prouvé le contraire.
Oui, il a prouvé
non, mais Puma, je ne sais pas si vous vous rappelez, Puma qui a fait une publicité terrible. Ah. Il y a, on voyait sur sur la plage, avec la lampe d'Aladin, il rêvait justement. Alors, on voit tout le monde avec des chaussures Puma et même à la naissance,
il y en avait.
Alors, ça c'était, si vous voulez, vers 65-66. Vous savez, quand on est médecin de médecine générale et qu'il vous vient une idée comme ça, vous dites, est-ce que c'est valable, hein? C'est trop simple. C'est trop simple pour être valable. Donc, je ne disais rien de tout. Puis comme j'avais ces maux de tête, en supprimant les vêtements de nylon, en faisant des douches fréquentes, je me suis un petit peu amélioré. Et j'avais constaté une chose assez particulière, que quand je mettais des vêtements en nylon, en particulier des pantalons, j'avais des poils qui se hérissaient, des...
L'électricité statique.
Voilà, c'est l'électricité statique qui faisait ça. Alors à partir de là, je me suis dit, bon ben, je vais chercher des minéraux. Qu'est-ce qu'on fait dans les cures thermales? Dans les cures thermales, on applique des minéraux sur le corps. On essaie un géologue, on a choisi des minéraux. Oh, il n'y a rien de secret, vous savez. Les minéraux, je les ai toujours donnés. Les minéraux que j'ai utilisés pendant 35 ans sont la baryte, la blende, le feldspath, la galène, le graphite, le quartz, le spath, le talc, tous à l'état pur et pulvérisés, mélangés.
Ce sont tous des minéraux qui ont des capacités, des propriétés électriques.
Dans les cures thermales, je n'ai rien inventé. Je les ai mis dans une petite ceinture et puis je les ai fait porter autour des hanches. Ça a amélioré les rhumatisants. Ça m'a amélioré d'abord moi. Et puis, à partir de 1967, j'en avais parlé à mon père, naturellement.
Qui était médecin, lui aussi.
Mon père était médecin.
Comme votre
frère,
fils.
Mon frère. Non, moi, j'ai pas de fils. C'est un neveu qui est médecin.
Ah, c'est un neveu, d'accord.
J'ai un neveu, j'ai une nièce qui est médecin. Ah. Moi, j'ai une fille qui est
médecin. C'est une dynastie. Hein.
Et j'ai trois neveux qui sont médecins.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Et deux beaux-frères. Qui sont médecins également. Et donc, je me suis amélioré sur moi. Et puis après, je me suis dit, mais dans le fond, peut-être qu'il faut en faire profiter les autres, les rhumatisants. Alors, j'ai fait, à partir de début 67, ce traitement qui a rapidement amélioré les gens. Mais je pense qu'il a amélioré les gens parce qu'en plus de ça, je leur disais, pas de vêtements nylon, pas de traitement électrique. À l'époque, c'était la mode. Hein. Vous allez voir chez n'importe quel rhumatologue, chez n'importe quel kiné, paf, paf, ils vous branchaient sur l'électricité. Vous aviez les réclames, je dis pas le nom, mais... pour les vêtements triboélectriques. Donc tout le monde était avec ces gens-là. La nuit, on se couchait, les gens rigolaient. Oh, ça fait des étincelles. C'est... Et les gens, ils avaient des étincelles, mais en s'embrassant. Et je suis parti d'une petite idée très simple, les chaînes derrière les voitures.
Oui, oui, bien sûr, je me souviens de ça.
Vous savez comment ça marche?
Bah, ça évacue l'électricité statique du véhicule.
Voilà. Quand la voiture roule... Vous avez le frottement qui fait l'électricité statique sur la carrosserie. Quand vous descendez, que vous fermez votre voiture, si vous êtes à pieds nus, l'électricité accumulée sur la carrosserie va passer dans votre corps qui est à trois quarts de l'eau, et puis va passer dans le sol.
Ouais.
Et si vous avez des chaussures isolantes, c'est là que vous avez l'électricité. Et dites-vous bien que maintenant, c'est obligé pour les camions qui livrent de l'essence de se mettre à la marche.
Ah oui, c'est vrai.
Et
oui,
tout de suite. Donc,
il faut évacuer. Donc cette chaîne, c'était pas quelque chose de stupide.
C'est,
parce que nous, les gamins, ça nous faisait beaucoup rire. On prenait tous les gens qui avaient ça pour des imbéciles, bien sûr.
Mais parce qu'on était malade en voiture, c'est ça.
Non, c'était pas.
On pensait que c'était ça.
Et d'ailleurs, une fois, je parlais de ça à une malade et le mari était pilote. Ils m'ont dit, on sait très bien si toutes ces choses-là dans l'aviation. Il y a eu des avions qui explosaient, on savait pas pourquoi, et on s'est aperçu que. À l'atterrissage, il y avait des étincelles et avec les vapeurs de kérosène, ça, il me dit maintenant, tous les avions ont des pneus avec un matériau qui les met à la masse directement.
Ouais.
Pourquoi on ne le fait pas pour les voitures?
Bon, on ne va pas faire une heure là-dessus, mais quand même, je me souviens qu'il y avait quelque chose qui m'avait paru ridicule, c'est que on avait remplacé ces chaînes métalliques...
Par une sorte de mystère.
Oui, mais on les avait remplacées par un truc en caoutchouc.
Mais un truc en caoutchouc...
Ça n'a pas de sens.
Mais non, mais qui contient un matériau qui les met à la masse.
Ah oui, quand même. Bon. Il y avait quand même quelque chose qui mettait...
Alors, le 29 avril 1967, je fais ce traitement à une malade qui était rhumatisante et qui, en même temps, avait une sclérose en plaques. Et à mon grand étonnement, un mois après, elle me dit, mais j'ai moins de douleur, elle marchait avec deux cannes, et puis j'ai moins de tremblements. Et puis au bout de 3 mois elle quitte une canne, au bout de 4 mois elle quitte la deuxième canne, au bout de 6 mois elle remarche à peu près normalement. Elle était très connue, elle était marchande de pain dans le cours Saléa, c'est-à-dire un marché à Nice où tout le monde va, et en plus de ça elle était là depuis 30 ans, donc tout le monde connaissait Charlotte. Et au bout de quelques mois elle était transformée et On lui demandait si elle venait de Lourdes. Et moi, je n'ai rien caché. Dès que j'ai vu un petit peu que ça donnait des résultats, j'en ai parlé à l'hôpital à un médecin. J'ai fait une inscription pour être une présentation à la société de médecine. Je suis allé voir le conseil de l'ordre. Et un journaliste, qui n'était pas un journaliste cherchant quelque chose de sensationnel, qui était le directeur de l'AFP à Nice, qui depuis des mois avait interrogé cette malade et avait fait une enquête, et qui est venu un jour, c'était au mois de mars, en me disant, voilà, j'enquête sur vos malades depuis plusieurs semaines, je sais que vous allez faire quelque chose, mais moi, il faut que je fasse une... Alors j'ai dit, malheureux, n'envoyez pas de machin. Alors je téléphone au conseil de l'ordre, on peut pas empêcher un journaliste. Le 14 mars, une dépêche AFP. À 1h l'après-midi, Madame Porte était envahie, moi aussi. Et une semaine après, je suis convoqué au conseil de l'ordre de Nice, où mes confrères me disent, vous êtes le déshonneur de votre famille, vous portez ombrage à la médecine niçoise, à la médecine française, à votre... Je dis, mais il y a des malades. Vos malades ne nous intéressent pas. Plainte. Alors, oui, le Comité national de la sclérose en plaques, le 18 par voie de presse, et les paralysés de France par voie de presse, dans toute la presse, attention, il y a un médecin à Nice qui fait un traitement. Ils ne savaient pas qui c'était, ils ne savaient pas en quoi consistait, mais tout de suite, on a mis en garde les malades.
Ah, c'est formidable.
Plainte pour publicité et charlatanisme du préfet des Alpes-Maritimes, du Conseil de l'Ordre des médecins et du ministère de la Santé publique. Trois plaintes. Le 17 novembre, j'ai été convoqué au Conseil régional. Et là, il y a mon avocat, qui est un très grand avocat, c'est Maître Pierre Pasquini, l'ancien député, l'ancien ministre des anciens combattants, qui dit, mais il y a des malades quand même, on peut en présenter 300. Le vice-président du Conseil a dit, mais les malades ne nous intéressent pas. J'étais radié à vie, j'avais 40 ans. On a fait appel, je rigole, mais on a fait appel au Conseil national, la même chose. On a fait appel au Conseil d'État. Au Conseil d'État, il y avait 600 lettres de malades, disant nous sommes améliorés. On n'en a pas tenu compte. Mes malades étaient quand même outrés, parce qu'ils voulaient se faire examiner. Alors ils ont fait une pétition, étant donné que depuis un an et demi, moi je demandais au ministère de faire une enquête. Non, pas d'enquête. Et alors mes malades ont fait une pétition au président de l'Assemblée nationale, qui a enfin créé une commission. J'ai rencontré ces cinq professeurs, ces cinq experts. Je suis resté 2 heures avec eux, je leur ai expliqué ma théorie, juste comme ça. Je leur ai dit, voilà, je vous apporte 457 observations de malades, et les malades vous ont écrit directement au ministère. Bon, 2 heures, expliqué. Pas un seul mot des malades.
Ils ont des médecins, vous voulez dire?
Non, ils ne m'ont pas demandé.
Ah, ils ne vont pas parler du tout des malades.
Pas du tout parler des malades. Je leur avais apporté le matériel, la petite ceinture. Non, ça ne nous intéresse pas. Ils ont examiné 3 malades. Et quelques mois après, ils ont donné leur conclusion. La thérapeutique et la théorie n'a aucune base scientifique. Les malades du docteur Masqui sont tous des malades psychosomatiques. Et le docteur Masqui est dangereux pour ces malades en raison de son comportement. Donc, il est justiciable de l'article L460 du Code de la Santé. C'est-à-dire qu'on pouvait m'interner d'office.
Ce sont des criminels, mais des criminels.
Non, ce sont des ministres.
Oui, mais ça, oui. Donc,
dans mon livre, je mets en cause 100 personnes, dont 11 ministres. Et je n'attends pas 2005 pour ces choses-là. Dès le début, si vous voulez, on en a parlé. Quand j'ai su, c'est un député qui avait écrit immédiatement, naturellement, dès qu'il m'a donné la lettre, je l'ai envoyé à Pompidou. Alors là, ils ont plus bougé. Mais quand on a su qu'ils voulaient me faire passer pour fou, il y a eu des articles dans La Vie Claire. Vous savez, La Vie Claire, une revue extraordinaire qui avait été créée par M. Geffroy, qui pendant 10 ans, tous les mois, a fait paraître un grand article. Les malades, ils avaient appelé ça au secours de la masquithérapie. Et là, j'ai les articles titrés 5 tristes cires. Et grand comme ça, en février 71. Et ça a duré comme ça. Alors, comme je continuais à exercer, ils m'ont poursuivi pour exercice illégal de la médecine à Nice, 3 fois, 71, 74, 78. J'ai eu, si vous voulez, la chance d'abord de rencontrer un professeur de Tours, le professeur Joseph Touvenot, qui par l'intermédiaire d'une malade de Tours, qui avait été très améliorée pour la sclérose en plaques, m'a contacté. Je suis allé à Tours, je lui ai expliqué mon petit bidule, il me dit « Oh mais, dans ce que vous m'expliquez, je vois à peu près une vingtaine ou même plus de travaux qui demanderaient chacun une vie entière pour être, parce que votre pollution électromagnétique, ça touche tout. » Et à partir de là, c'était extraordinaire. C'est un professeur titulaire de chaire qui, à chaque fois, venait à Nice me défendre à la barre. Et qui parlait trois quarts d'heure.
Hein. Lui, c'est un héros, alors.
Pardon ?
Lui, c'est un héros.
Ah, il est avec moi. Avec moi, avec Pasquini et avec mes malades. Il fallait voir les malades, hein. J'étais révolté.
Vous savez, c'est l'histoire du docteur Gerber, c'est l'histoire de Beljanski, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que avant même de savoir si c'est fondé, si c'est pas fondé et tout, vous savez, le système se met en place
pour se protéger. Je suis médecin général, mais dès le départ, dès 1970, il y a eu des comparaisons avec Pasteur, avec... Dites-vous bien que au deuxième procès, le président qui n'était pas quelqu'un de très facile, il n'y avait pas la réputation facile. J'ai été condamné d'abord à des minimums 200 francs avec sursis. J'avais un avocat, Pierre Pasquini. Il fallait l'entendre. 2 heures, il restait à me défendre. Et le président m'a dit, Pasteur aussi a des ennuis. Et au dernier procès, c'est le procureur lui-même qui m'a dit, vous souffrez, vous avez beaucoup souffert, vous êtes un précurseur. Tenez bon, et si vous avez raison, vous l'emporterez.
À ce propos, c'est admis, il me semble, corrigez-moi, beaucoup d'auditeurs doivent se poser la question, la pollution électromagnétique, c'est une notion admise maintenant.
C'est moi qui ai créé le terme.
C'est généralement admis maintenant, non ?
C'est admis par la communauté scientifique et c'est caché depuis 35 ans par les successifs ministres de la Santé. Et encore, à l'heure actuelle, c'est encore caché. Et en plus de ça, je me suis battu non seulement pour ça, mais pour la sclérose en plaques. Parce que on a parlé de tous ces problèmes. Je termine, si vous voulez. À la longue, j'ai été quand même amnistié par Mitterrand et réhabilité il y a 3 ans par Chirac. J'avais écrit un livre.
Pardonnez-moi de vous interrompre une seconde. Vous avez été amnistié et réhabilité.
Oui.
Mais vous nous avez dit 77 ans. Vous avez été donc réhabilité à 75 ans à peu près.
Oui.
On vous a interdit l'exercice de la médecine à 40 ans.
Ah oui, j'ai
porté la moitié de votre existence.
J'ai porté l'étiquette infamante de charlatan radié de l'ordre pendant 30 ans.
Mais ça, qui vous rendra ces 30 années perdues, ces 30 années de cauchemar?
C'est pas du cauchemar, parce que en faisant le bilan, j'ai eu tellement de satisfaction avec ces malades. D'abord, quelle satisfaction d'avoir pensé à une idée et que cette idée se concrétise. Il n'y a rien de mieux pour un chercheur.
Ouais.
C'est vrai. Et après, les satisfactions, dites-vous bien, que quand tous ces ministres, je leur écrivais sans arrêt, ils ne me répondaient jamais. J'ai jamais eu de réponse des ministres depuis 68. Mais quand je recevais des lettres désagréables et que toute la journée je passais ma vie avec les malades et qui étaient améliorés, automatiquement ça allait, ça passait. Hein. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'à partir de 72, on a commencé dans le monde entier à parler de pollution électromagnétique. 72, 74, 75, 79, après 76, les ravages de l'électricité. En 90, il y a un Allemand qui dit, on a fait les calculs, la pollution électromagnétique a centuplé entre 60 et 90. En même temps, vous aviez... dans le Progrès de Lyon du 14 février 1990, qui écrivait « Toute fréquence confondue, la densité de notre environnement électromagnétique s'est depuis 30 ans multipliée par 1 milliard. » C'est-à-dire que, c'est pas la pollution électromagnétique, c'est toutes les ondes émises, si vous voulez, qui ont été augmentées par 1 milliard. En plus, vous avez... si vous voulez, l'Organisation mondiale de la santé, qui en 1985 a fait paraître un livre qui s'appelle « La protection contre les ondes électromagnétiques ». Qui commençait, je vous ai apporté uniquement la préface, 85, hein, c'était un gros bouquin avec 800 références bibliographiques. La préface disait « L'un des nouveaux dangers présentés par l'environnement est celui des rayonnements non ionisants qui peuvent avoir des effets nuisibles à la santé de l'être humain. » Et terminait « La protection contre les expositions aux rayonnements non ionisants constitue un souci croissant des pays industrialisés, mais elle a également une importance toujours plus grande pour les habitants des autres parties du monde. » Tout ça, ça partait naturellement au ministère. Pas de réponse. En même temps, vous aviez un grand schéma, vous voyez, on peut m'en montrer.
Que vous publiez dans votre livre,
d'ailleurs. Voilà, que je publie dans mon livre. Plongé dans un champ électrique alternatif, le corps humain se trouve intégré dans le circuit électrique en raison de sa conductivité relativement élevée. Le corps placé entre la Terre et l'électrone, constitué par l'air, déforme le champ jusque-là homogène. Si le sujet n'est pas relié à la Terre, il se produit une tension sur la surface de son corps. Cette tension est nulle, par contre, s'il est relié à la Terre. Tout est là. Toute mon idée est partie de là. Je ne vais pas être dit comme ça. J'ai dit, les gens sont dans la masse.
On en parlait hors micro tout à l'heure. Vous disiez que l'intensité de l'environnement électromagnétique était multipliée par 1 milliard. Juste cet après-midi, j'avais au téléphone un ami qui a été brutalement pris de très 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 violentes migraines. Il n'avait jamais eu de migraine de sa vie, c'est un garçon qui a 45 ans, jamais le moindre problème. D'un seul coup, des migraines tellement affreuses, m'a-t-il dit, qu'il en pleurait. Voilà. Un homme de 45 ans qui pleure parce qu'il a mal à la tête, c'est pas une blague. Hein. Alors il est allé dans un service qui est à la Riboisière, qui est un service spécialisé dans les céphalées, qui paraît-il est un service magnifique, qui fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, qui est très bien installé, etc. Et les médecins l'ont reçu, l'ont examiné, l'ont fait passer des tas d'examens, vous ne comprenez pas pourquoi, et à la fin, ils nous disent, on n'a pas d'explication. En revanche, on va vous poser des questions, et toutes les questions, enfin la plupart des questions qu'ils lui ont posées, tournaient autour des conditions électromagnétiques dans lesquelles il vivait. Est-ce qu'il utilisait un portable? Est-ce qu'il travaillait sur ordinateur? Etc. Donc, visiblement, ils sont sur la piste de... Mais ils lui ont dit, on est stupéfait par le caractère exponentiel de l'augmentation des cas de migraines violentes, extrêmement invalidantes et brutales. Or, il faut savoir que les Américains ont mis au point une arme, ça il faudra un jour qu'on en parle avec Filterman, qui doit être au courant, ils ont mis au point une arme qui est une arme qui, simplement par l'envoi d'ondes électromagnétiques, provoque des incapacités totales de réaction. Les gens ont immédiatement des migraines atroces, ils se mettent à vomir. Et tous les médecins, enfin les médecins de la Riboisière, ont dit ça. Voilà. Alors vous me montrez un...
Vendredi, un magazine. On n'a pas le temps. Hein. Mais c'est l'arme exactement, c'est les ondes. Et paraît-il qu'ils l'ont déjà utilisé au point de vue au golf. Ça donne pas uniquement, ça fait les arrêts cardiaques, ça vous trouble le cerveau, on leur fait raconter n'importe quoi, et c'est pas uniquement les Américains, tout le monde y travaille là-dessus, les Français y travaillent depuis 30 ans.
Pourquoi ils ont pris Chirac comme cobaye?
Vous voyez, bien qu'un épais silence entoure les recherches menées sur ces terribles armes par divers pays, entre parenthèses, États-Unis, Russes, Chine, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Italie et France. Tout ça, j'en parlerai.
Vous citez Science et Vie, docteur, hein, octobre 2001.
Oui, octobre 2001.
Ah oui, c'est
alors, pour répondre justement à votre question, les médecins commencent à s'intéresser à ces choses-là. Ça fait 30 ans que je leur dis. Et voyez ça, c'est tout récent, Alternative Santé, avril 2005. C'est Cécile Baudet, qui est une journaliste de Alternative Santé, avec laquelle je suis en rapport depuis longtemps, qui a écrit un livre, Téléphone portable, qui commence ainsi. Écoutez bien. Les risques de la téléphonie mobile commencent à se préciser. Des études paraissent à l'étranger. En France, les recherches qui concluent aux effets nocifs des portables peinent à être publiées et leurs auteurs sont parfois mis à l'index. Une exception française regrettable. J'ai deux chapitres dans mon livre sur les téléphones portables et je donne les noms des deux, c'est-à-dire Santini et Le Ruse. On leur a fermé le laboratoire, on leur a fait des menaces parce qu'ils disaient que c'était... Mais c'est pas une exception. Hein. Je vous assure, c'est quelque chose... Alors, j'en termine pour montrer que la France se fout éperdument de ses problèmes. En 94, c'est il y a 10 ans, Le 5 mai 94, le Parlement européen a voté la résolution 15, rayonnement non ionisant, sur la lutte contre les nuisances provoquées par les rayonnements non ionisants, c'est-à-dire la pollution électromagnétique. Cette résolution prévoit une série de mesures que devront adopter les différents gouvernements de la communauté européenne. Vous en avez entendu parler ?
Jamais.
Pour respecter ces normes, les industriels responsables des nuisances électromagnétiques seront dans l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens techniques pour réduire les champs électriques et magnétiques émis dans l'environnement. Et en même temps, l'information du public, il faut recommande aussi l'information du public sur l'intensité des champs électromagnétiques générés par les appareils électriques. Tout ça, ça a été envoyé à Chirac.
Il y a vraiment quelque chose de très très grave, parce que je lisais récemment un article avec une petite photo du Sacré-Cœur. Sur une des coupoles du Sacré-Cœur, il y a deux petites antennes qui ont été photographiées par des riverains, enfin par des voisins. Et ça les a inquiétés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des antennes de radio-téléphone? Donc ils sont allés au Sacré-Cœur en disant, qu'est-ce que c'est que ces antennes? On leur a dit, on n'est pas au courant. Bon. C'est-à-dire qu'on peut placer quelque chose sur le Sacré-Cœur sans que personne soit au courant. J'ai téléphoné à la ville de Paris, qui a dit, oh non, on est au courant de rien, non, qu'est-ce que vous nous racontez là? Non, on ne sait pas. On n'a pas donné d'autorisation. Ils ont téléphoné aux grands fournisseurs de téléphonie mobile.
Et les opérateurs.
Les opérateurs.
On les appelle les opérateurs.
Qui ont dit, oh ben non, quoi, non, c'est pas nous. Autrement dit, je vous signale la chose, il y a deux antennes qui ont poussé sur le toit du Sacré-Cœur, probablement par l'opération du Saint-Esprit, parce que personne n'est au courant dans les autorités qui sont censées quand même savoir de quoi on parle. Donc, il y a véritablement une volonté de dissimuler les dangers du téléphone portable pour une simple raison. C'est que si c'était connu, alors là, pour le coup, le chaos économique qu'ils nous promettaient avec le nom, là, il est arrivé. Parce que les boîtes comme Bouygues, France Télécom, SFR et compagnie, c'est des centaines de milliards d'euros qui sont investis quand elles ont acheté. Imaginez que l'État soit obligé de rembourser les sommes qui ont été versées pour acheter des autorisations de construire, c'est une ruine totale.
Tout ça dans mon livre, je vous explique comment ça s'est passé. C'est Jospin qui, deux jours avant de quitter, a fait adopter des normes qui sont très laxistes, donc... Ah oui, ces normes très laxistes, donc les opérateurs peuvent mettre des... J'ai apporté aussi pour la conférence, vous voyez. Tout ça, c'est sur les ondes électroniques, sur les téléphones portables. Je pourrais vous rester avec vous pendant des heures pour ces choses-là. Alors, je suis quand même, je suis pas un spécialiste de ces ondes, pour moi, si vous voulez. Tout ce que j'ai dit, je l'ai trouvé en 67. Toutes ces idées, elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours identiques. Je me suis contenté depuis 40 ans de noter au fur et à mesure qu'il y a un Américain, il y a un Russe qui revient. Donc ça s'accumule. Mais c'est tellement monstrueux que, à la longue, il faut quand même que ça sorte. Dites-vous bien que... On me demande pour quelle raison tu as pris une petite maison d'édition qu'on ne connaît pas du tout.
Oui, alors voilà. Ah. Elle commence à se faire connaître, mais France Europe Édition, on ne peut pas dire que ça soit...
Elle a 7 ans d'existence. Elle a 7 ans d'existence. Elle est à Nice, en plus. Vous savez, Nice a une très mauvaise réputation, on le sait. À Nice, on ne fout rien du tout. On a eu Jacques Médecin. On a le tram avec les pour Nice, c'est vraiment c'est malheureux comme ça. Pourtant, je suis niçois de 5 générations des deux côtés, hein. Mais on a une mauvaise réputation. Et alors, moi, je suis bête et discipliné. Je vois Chirac qui m'amène ici. Je me suis les doigts dans le nez. Je vais avoir tout ça annoncé dans la presse, bien sûr. Je vais avoir les éditeurs qui vont se précipiter sur moi. J'avais écrit le livre, il était annoncé quand j'ai été réhabilité. 27 éditeurs parisiens, 27 éditeurs ont refusé mon livre. 27. J'ai la liste avec les jours des refus. 27. À la fin, je me suis dit, je vais aller à l'étranger. On m'avait donné des adresses en Suisse, en Belgique, même au Canada. On m'a dit, mais tu devrais aller. Et puis... J'ai présenté ce livre à un éditeur niçois qui s'appelle France Europe Édition. Ils ont accepté mon livre. C'est un gros bouquin, hein. 150 pages.
C'est un gros, gros livre, oui.
Sans changer un mot. Ouais. Et en plus de ça, ils ont accepté la couverture que j'ai moi-même dessinée.
Voilà.
À Alors, il faudrait quand même qu'on parle de la sclérose en plaques.
Alors, parlons, il nous reste 6 minutes, si vous voulez.
Alors,
c'est un peu court, mais...
Non, non, merci. Oh là, j'ai l'habitude, vous savez, ça fait 40 ans que je raconte la même chose. Quand j'ai eu cette idée, et que j'ai vu que la sclérose en plaques était une complication, pour moi, ça, immédiatement, je me suis une. Et j'ai dit tout de suite, toutes ces maladies, il y a un facteur génétique de prédisposition, un facteur d'environnement. Le facteur d'environnement, c'est la pollution électromagnétique. Et à partir de là, j'ai dit, c'est une maladie civilisation comme les autres, et je l'ai soignée de la même façon. Immédiatement, les professeurs, naturellement, c'est un fou, puisqu'on voulait... Parmi les 5 professeurs, il y avait 2 qui étaient neurologues, qui faisaient partie du comité national de sclérose en plaques. Mais tout ça raconté en détail, hein, avec les noms, je dis 100 personnes nommées. Non, c'est un virus, alors après c'était un virus lent, après c'était un virus banal, après c'était un morceau de virus, après c'est une particule de virus. Au mois de... septembre 83, dans la presse, la sclérose en plaques, eh ben, ils disent, on comprend pas tellement, ça continue. Alors, on pense que peut-être il y a 2 facteurs, un facteur génétique, faute de disposition. Ils ont fait des choses épouvantables. Quand j'ai commencé à voir les sclérosés en plaques, en 68, le traitement à la mode, c'était la cortisone au long cours. C'est-à-dire qu'on vous donnait 20 mg pendant des années. Les gens étaient gonflés. Les professeurs avaient décidé que la sclérose en plaques pouvait avoir, que la grossesse pouvait avoir une action néfaste. Ils interdisaient aux femmes d'avoir la grossesse, une grossesse. Alors moi, je leur dis non. Ils interdisaient de se faire vacciner.
Parce qu'après, il y a eu l'histoire de le lien avec l'hépatite B.
Vous n'y croyez pas, vous n'en retenez pas différent. Et à partir de 83, alors ils ont commencé à dire un facteur génétique, facteur de prédisposition. Il faut que je vous lise quand même quelque chose, parce qu'il y a quelque temps, il y a une dizaine d'années, ils ont commencé à employer l'interféron. L'interféron, c'est que ça ne soigne pas la maladie. L'interféron durcit la barrière hémato-encéphalique et empêche les macrophages, c'est-à-dire les cellules, les leucocytes, de venir manger la myéline. Moi, je leur ai dit, la myéline, c'est, si vous voulez, comme un fil électrique. Et par échauffement, la myéline fond, puisque la myéline, c'est de la graisse. Non, c'est des conneries, tout ça. Je veux bien, mais moi, je continuais, si vous voulez, avoir des résultats. Et alors, ils ont employé l'interféron. Et vous voyez, ça, c'est dans une revue de malades atteints de sclérose en plaques, avec, coiffé par les professeurs qui, depuis dizaines d'années, disent que l'interféron, il faut le faire, Et ça, il faut quand même le lire pour le croire. Au premier trimestre de 2001, dans Facteur Santé, c'est un professeur qui est à Toulouse, c'est le professeur Clanet, c'est lui qui est maintenant le chef des médecins qui s'occupent. Et au cours d'une conférence, il a dit « C'est un abus de prescrire des interférons sur une forme progressive primaire, dans la mesure où sous cette forme de progression, il y a des poussées, petit impact thérapeutique des interférons. » La prescription n'est justifiée que si l'on a la preuve de l'existence de poussées ou d'activités avec des contrastes importants. Pour les formes primaires, le neurologue donne des interférons, tout en sachant que cela ne fonctionne pas, car il est préférable de prescrire plutôt que de dire qu'il n'y a pas de traitement actuellement des normes des soins.
Ben c'est fou. Surtout que l'interféron, ça a des effets. Oui,
c'est raconté dans mon livre.
Ravageur.
Tout ça, c'est raconté dans mon livre. Alors, ils ont absolument dit que les émotions, les contrariétés n'ont pas d'importance. Moi, dès que j'ai vu les premières malades, la chose qui m'a étonné, c'est que tous ces malades me disaient qu'ils avaient une émotion, une contrariété, automatiquement, ils se sentaient plus mal. Alors je me dis, ils se sentent plus mal et puis après ils redeviennent bien. Si vraiment il y avait des lésions définitives au niveau du système nerveux, il n'y aurait pas ce va-et-vient.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, j'ai dit, ils sont sensibles aux émotions, aux contrariétés. 30 ans, ils ont attendu. Ils ont reconnu en 2000 que le stress et les émotions étaient responsables de facteurs. Et ce qui est absolument invraisemblable, c'est que l'inventeur, si vous voulez, de la sclérose en plaques, c'est le premier médecin qui a Charcot et Vulpian, la notion du stress déclenchant une poussée de sclérose en plaques ou exacerbant la maladie remonte à Charcot, selon qui la sclérose en plaques pouvait apparaître dans les suites d'un chagrin, d'une situation. Ils ont caché pendant 100 ans ce que Charcot
avait. Charcot avait trouvé en disant que Charcot était un charlatan, un bidon, un guignol.
Il cherchait le virus. Ouais. Alors, moi je leur ai dit non, c'est pas un virus. Et je leur dis, cette sclérose en plaques augmente d'une façon considérable. Ils disent, mais on comprend pas. Il y avait 25 000 sclérosés en plaques en France. En 68, ils sont 70 000. Dans le monde, vous aviez 1 million. En 68, ils sont 2 millions et demi. Maintenant, tous les ans, il y a 2 000 sclérosés en plaques en France en plus. Aux États-Unis, 10 000. Ils comprennent pas. Ils disent c'est le plus grand mystère. Alors il faut voir, il faut voir. Alors ils viennent régulièrement à la radio, à la télévision. Ils disent, oh, ce qui nous manque, c'est de l'argent.
Oui.
C'est de l'argent. Alors donnez-nous de l'argent. Et à ce moment-là, on va le trouver, le virus. Alors maintenant, si vous voulez, ils commencent à dire l'identification des gènes avance. Nous avons, et l'autre jour, je l'ai pas apporté, mais ils disent le soleil aurait une influence. Donc ils arrivent progressivement à mettre ces choses-là. Alors, ce qu'il y a, c'est que je suis pas de révolté. Ce qu'il y a, si vous voulez, dans cette affaire, moi, il y a une chose, c'est vraiment le mépris que j'ai pour ces médecins, pour ces ministres qui n'ont jamais voulu reconnaître mes théories, parce que c'est quand même une maladie qui est très grave. C'est la raison pour laquelle, le 4 mai, j'ai adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé. Il a changé maintenant. Paraît-il, ça sera peut-être un chef de cabinet de Chirac. C'est peut-être mieux que Douce de Blasi, qui ne m'a pas répondu. Une lettre ouverte, en leur disant il faut faire une campagne d'information et en même temps, il faut quand même se pencher. Et je dis, si vous voulez, que c'est catastrophique parce que cette pollution électromagnétique, elle est incolore, inodore, insonore, impalpable et indolore. C'est-à-dire que tout le monde peut en être victime et il faut attendre des années pour en être. Donc, c'est un cri d'alarme que je pousse dans.
Alors, docteur, je vais vous faire une proposition. Est-ce que vous pouvez, là, je vais vous demander de laisser la place à votre confrère, Saint-Nager, mais est-ce que vous voulez rester?
Oui.
Je pense qu'on va trouver, dans la deuxième partie de l'émission, une dizaine de minutes parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous reviendrez, vous répondrez aux questions.
Vous savez, je suis habitué, ça fait 30 ans que je fais des conférences. Généralement, je pense une heure et après, je reste deux heures à répondre aux questions.
Et puis, de toute façon, vendredi soir, vous êtes 12 rue Saint-Joseph au centre Saint-Paul,
oui,
où vous pourrez répondre aux questions dans le deuxième arrondissement, 12 rue Saint-Joseph. Et samedi, vous êtes à la librairie du Petit Pont, enfin la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Et puis dimanche, toute la journée, vous serez à mon stand.
Je vais vous dire un dernier mot. Ce livre a été refusé par 27 éditeurs. Il a déjà été présenté à la FNAC le 24 mai. Je suis au Salon du Livre de Nice à la fin juin. Je suis ensuite au Salon du Livre de Toulon. Je suis au Salon du Livre de Saint-Étienne. Et le livre était paru depuis une semaine. J'ai reçu un coup de téléphone d'un groupe de libraires de Bretagne qui me demande de venir au mois d'octobre pour faire des conférences à Nantes, à Brest, à Nantes, à Rennes, à Caen et peut-être à Rouen.
Décidément, le temps semble favorable aux gens de courage, aux gens qui disent non. À tout à l'heure, docteur.
À tout à l'heure.
Je vous demande de laisser la place au docteur Saint-Nager, qui, lui, vient de publier un livre qui s'appelle « Des aliments qui entretiennent votre santé » et dont on va parler dans 2 minutes après ça.
Dimanche 5 juin, fête de la courtoisie. À Eurocite Austerlitz, dimanche 5 juin, de 10h à 19h, des centaines d'écrivains qui se sont exprimés sur Radio Courtoisie vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux à offrir, des livres dédicacés. Venez à la rencontre de ces auteurs et de toute l'équipe de Radio Courtoisie qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Retenez, dimanche 5 juin, fête de la courtoisie. Eurocite Austerlitz, 32 quai d'Austerlitz, Paris 13e, métro Gare d'Austerlitz. Entrée 15 euros. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Attention, n'envoyez plus vos réservations par courrier, vous ne recevriez pas vos billets d'entrée à temps. Vous pourrez acheter vos tickets sur place. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 10h au 32 quai d'Austerlitz pour la fête de la courtoisie.
bien entendu, on vous attend dimanche au stand, entre autres, à tous les stands, mais au stand du Libre Journal du mercredi, où vous pourrez retrouver Paul Abalin, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle La Dernière Arca, Charles Benfredge, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, pour son livre Rue de Rome, qui est un livre formidable, Monsieur Jean-Pierre Boisette, que je vais recevoir tout à l'heure, le commandant Bunel, Pierre Bunel sera là, l'abbé Cellier sans doute, Jean-Baptiste Chaumeil, je l'attends, il y aura Cécilia Dem, j'espère que Marc Filterman a été prévenu qu'il sera là, j'ai essayé de le prévenir mais il n'est pas plus, s'il écoute cette émission il faut qu'il vienne, Patrick Goffman, vous serez là, vous ?
Présent.
C'est bien Patrick, vous pourrez vendre votre livre qui s'appelle...
Je vendrai mon nouveau livre, qui est un recueil de chroniques et qui s'appelle Diverses droites. Aux éditions du Alpha. On peut, d'ici là, l'acheter sur dualpha.com ou fnac.com et l'apporter déjà lu pour dédicace.
Daniel Abrocorn, qui sera là aussi. Hugues Kerali, qui a écrit un très beau livre, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Guy Le Hideux sera là. Jean Léo, qui est en réalité, je vais livrer un lourd secret de famille, Jean-Pascal Cervera, qui a écrit un petit bouquin formidable dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle le Diogène, le cynisme et la grâce, qui est un roman philosophique délicieux, et pas seulement délicieux, mais intéressant. Gérard Le Tailleur, Jean Madiran, Jean-Pierre Masqui, que vous venez d'entendre, Georges Le Docteur Pourtalet, qui a fait un tabac lui aussi dans cette émission il n'y a pas très longtemps, pour un livre qui s'appelle Le corps a ses raisons que la médecine ne connaît pas. Charles Ridoux, j'espère. Alain Sanders, peut-être, c'est pas absolument sûr. Le docteur Sédinger, qui est en face de moi. Mon camarade Patrick Serre, l'abbé de Tanoir, Dominique Tasseau. Jean-Cybe de Ventavon, Mac Dizaki, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, Jean-Paul Leperlier, qui a écrit un livre dans lequel il évoque la personnalité du docteur Masqui, la personnalité de Le Ribot, la personnalité de tous les médecins ou de tous les chercheurs maudits, et de tous les médecins qui ont vraiment fait des découvertes formidables, comme Beljanski par exemple, et puis Didier Pouillot, que je recevrai aussi tout à l'heure, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le grand livre des aventuriers des mers, pirates, flibustiers, boucaniers et corsaires.
Et probablement le docteur Oudret aussi.
Et probablement le docteur Oudret. Et puis naturellement, le marquis sera là, ma femme sera là, et moi je serai là. Je vous conseille de venir parce qu'il y aura une petite surprise. Docteur Sénager, bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez donc un livre aux éditions du Dauphin, qui s'appelle « Des aliments qui entretiennent votre santé ». Alors, il y a des points communs, finalement, avec ce qu'on vient d'entendre. C'est des secrets de bonne santé qui sont liés à des connaissances naturelles anciennes, très anciennes. On s'aperçoit que, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on savait depuis très longtemps, mais qu'on a tendance à oublier, parce qu'on est écrasé par l'avalanche de la médecine chimique, de la médecine mathématique, de la médecine géométrique, de la médecine électromagnétique, et on oublie par exemple que avec des clémentines, en mangeant des clémentines, on peut arriver à résoudre des problèmes comme la déminérisation osseuse, des infections, des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, des calculs rénaux, des troubles du transit et des troubles de la vue. Bon, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des choses aussi simples que des clémentines. Et récemment, d'ailleurs, le docteur Gerber, lui aussi, avait souligné ça il y a fort longtemps. On nous a expliqué qu'il fallait manger 5 fruits par jour ou 5 légumes par jour pour échapper au cancer ou pour éviter, en tout cas, réduire les risques de cancer. Donc on sait depuis longtemps qu'il faut manger sain et manger des fruits et des légumes et des aliments sains pour être en bonne santé. Ça n'a pas l'air d'une découverte formidable et pourtant ça paraît ignoré par beaucoup de monde. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce livre ? C'est une expérience personnelle ?
Tout d'abord, je suis médecin nutritionniste. Donc, ce livre est basé sur ma pratique de tous les jours. Et c'est vrai que la médecine est parfois extrêmement scientifique, se coupe un petit peu des réalités. Alors ce que vous venez de signaler sur les remèdes de bonne femme, qui sont pas entre parenthèses de bonnes femmes, le sexe féminin, c'est de bonnes femmes de réputation.
De bonne réputation, oui.
Et ce sont des remèdes empiriques. La seule différence aujourd'hui, au troisième millénaire, c'est qu'on sait pourquoi. Alors, en gros, on sait que, par exemple, les fruits oranges contiennent du bêta-carotène, que le bêta-carotène est un antioxydant. Alors, par exemple, c'est vrai que ça rejoint un petit peu mon prédécesseur sur le terme de la pollution, parce que même sur le plan philosophique, c'est assez intéressant, parce que nous sommes des êtres qui vivons dans une atmosphère avec de l'oxygène. L'oxygène nous apporte la vie, mais l'oxygène nous apporte aussi la mort.
La mort, parce qu'elle nous oxyde.
Elle nous oxyde. Donc, la nature a trouvé, s'est rangée du côté de la vie en nous apportant les nutriments et les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, certaines substances qui permettent au corps de se défendre et de prolonger la vie contre la mort. Alors, donc je parlais du bêta-carotène dans les fruits oranges, mais par exemple...
Pardon, je vous interromps une seconde, parce que le bêta-carotène, il y a eu une campagne il n'y a pas très très longtemps, on expliquait que il faut faire attention avec le carotène, c'est peut-être dangereux, on ne sait pas trop. Alors
vous êtes bien informé, c'est effectivement une étude, des commentaires qui ont été faits à la suite d'une étude finlandaise, où un Finlandais avait montré que des personnes qui prenaient uniquement du bêta-carotène avaient fait un taux de cancer du poumon supérieur à ceux qui avaient une alimentation normale sans supplémentation. Alors le problème, c'est que les antioxydants sont une chaîne qui interagissent entre eux, et c'est un petit peu comme un peu comme une chaîne pour enlever les cailloux dans une carrière. S'il n'y a qu'un seul homme, il s'épuise et il meurt. S'il y a une chaîne, c'est nettement plus facile. Donc la personne qui avait fait cette étude avait lui-même reconnu que l'étude n'était pas très très bien faite dans ce sens-là, et qu'en plus le panel de personnes qui avaient été étudiées n'était pas représentatif, parce que c'était des personnes qui étaient alcooliques, donc diminuées, et à ce point-là, donc les résultats étaient moins bons. Alors, on a fait des tas d'autres études depuis, avec des chaînes antioxydantes qui montrent une amélioration nette sur la santé. Alors, c'est un petit peu différent, parce que là, on rentre dans une polémique entre l'alimentation et les compléments alimentaires. Par exemple, l'alimentation, personne ne remet en question que les aliments qui contiennent du bêta-carotène, comme les carottes, comme les abricots, personne ne remet en question que ces aliments sont mauvais pour la santé. Ce qui est remis en question, c'est une supplémentation à base de bêta-carotène. Alors, la polémique consiste à dire, est-ce que il faut donner des compléments alimentaires ou pas? Alors, si on regarde les choses un petit peu plus près, l'alimentation aujourd'hui, dans sa pollution, c'est-à-dire que on met des insecticides, on met des pesticides, il y a des chaînes du froid, et ça va au chaud, ça va au froid, tout ça, ça détruit les vitamines. On les cueille avant maturité, bien souvent, les fruits. Et donc, on peut se dire qu'il n'y a pas, d'ailleurs, des études sérieuses qui ont été faites, qui montrent que dans l'assiette du consommateur en région parisienne, il n'y a plus qu'un dixième des nutriments par rapport à quelqu'un qui habite le sud de la France et qui cueille le fruit dans son jardin. Donc, on peut se dire qu'effectivement, les micronutriments qui apportent la vie, comme j'ai dit au départ, ne sont pas apportés suffisamment par l'alimentation, et qu'il faudrait prendre au moins 2400 calories par jour pour avoir le nombre de micronutriments suffisant. 2400 calories par jour, c'est trop. Dans une société qui a tendance à devenir obèse, c'est trop. Donc il faut bien trouver une solution. Et c'est vrai que les compléments alimentaires, en tout cas c'est ma position, peuvent être une de ces solutions.
Alors c'est la question des compléments alimentaires, c'est évidemment central. Bon, il faut dire que votre livre est essentiellement consacré à des produits naturels.
Voilà, ça, mais c'était pas l'objet
du livre. Les fruits, les légumes, mais vous, l'un des derniers chapitres pose la question de la validité la supplémentation alimentaire, notamment en matière de vitamines, etc. Vous avez une position d'ailleurs qui est assez paraît raisonnable pour un béotien comme moi. Vous donnez l'opinion des deux parties, et vous dites que vous êtes plutôt favorable, dans la mesure où c'est fait de façon raisonnable, à une supplémentation. Mais le problème que pose cette supplémentation, je pense notamment à la vitamine C. On trouve de la vitamine C sous forme de comprimés effervescents dans les pharmacies, qui vaut 3 francs 6 sous. En réalité, on sait très bien que les modes d'extraction de la vitamine C font que, à l'état pur, la vitamine C véritable, ça coûte, c'est pas combien, un million d'euros le kilo. Enfin, c'est phénoménal ce que c'est cher. Donc, est-ce que quand on parle de supplémentation vitaminique, on parle de vitamines tout venant qu'on trouve dans les pharmacies comme ça ou dans les parapharmacies qu'on peut avaler, et qui sont en réalité essentiellement une quantité suffisante pour.
Alors c'est pas exactement la même chose dans les pharmacies parce que vous avez une législation en France qui est très claire, c'est que les compléments alimentaires ne doivent pas dépasser une certaine dose qui est la dose recommandée, ce qu'on appelle les apports quotidiens recommandés. Il faut pas que dans un comprimé il y ait plus que les apports quotidiens recommandés.
Oui, j'entends bien, mais par exemple
en pharmacie,
pour en rester à la vitamine C, si vous permettez, Linus Pauling disait. Quand on lui a demandé, il est mort à 100 ans pratiquement, il est mort en pleine forme en plus, vraiment. Quand on lui demandait, quand on lui disait, mais vous recommandez des doses de vitamine C qui sont absolument phénoménales et qui sont dangereuses, il répondait, c'est une ânerie, il n'y a aucun danger, vous pouvez prendre des vitamines C autant que vous voulez, le corps se sert, il prend ce dont il a besoin et le reste, il l'élimine. Est-ce que c'est vrai ça?
Alors lui, il a fait des travaux sur la vitamine C, très très importants, et je crois qu'il prenait de l'ordre de 6 grammes de vitamine C par jour.
Plus que ça, je crois qu'il est jusqu'à 12.
12 grammes. Et donc, il était étonnant d'une théorie qu'on appelle orthomoléculaire, qui est un peu différente quand même du livre que j'ai écrit, puisque moi, c'est plutôt sur l'alimentation, ce qu'apporte l'alimentation. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des tenants de cette théorie, il y a des opposants, mais c'était pas du tout le but du livre et ça dépasserait.
J'en parle parce que c'est un sujet qui m'a paru intéressant dans la mesure où, comme vous le disiez, les aliments qu'on trouve aujourd'hui avec, notamment, il y a une chose qui est frappante, c'est que quand on achète des fruits, par exemple, qu'on les met dans son frigo, si on oublie une pomme dans son frigo, on la retrouve 6 mois plus tard, c'est une pomme. Mmh. Enfin, elle a exactement là, elle n'est pas ridée, elle n'a pas pourri, donc on lui fait subir un traitement, c'est évident. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, une pomme, en quelques jours, si on la posait pas bien dans la cave à l'abri de la lumière, à l'abri du courant d'air, sur du sable propre, eh ben, elle pourrissait tout de suite. Donc, ces légumes et ces fruits qui ont subi des traitements, ils ont évidemment très probablement perdu la plupart de leur...
Dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on sait que les pommes, par exemple, puisque vous prenez cet exemple, les pommes subissent des traitements qui permettent de prolonger leur qualité, et qui donc ce sont des traitements externes. Donc pour manger une pomme, on a tendance à l'éplucher. Or la majorité des micronutriments, ce qu'on appelle les flavonoïdes, se trouvent dans la peau et directement sous la peau, donc au contact de celle-ci. Donc quand on enlève, il reste encore moins de ce qu'on aurait dû manger. Donc finalement, ça donne un petit peu de d'eau au moulin aux personnes qui parlent de compléments alimentaires et aux théories orthomoléculaires, effectivement.
Ces traitements, si je peux interjeter un mot, nous donnent quand même la joie aux Normands, qui nous écoutent nombreux, de déguster des pommes de Nouvelle-Zélande et maintenant de Chine.
Dans les supermarchés.
Oui.
Pendant qu'on coupe les pommiers dans leur jardin. J'avais reçu ici une dame qui faisait partie, avait créé ce qu'on pourrait appeler un conservateur du pommier, et elle avait recensé, je crois, 400 sortes de pommes différentes en France, dans la tradition française. Et on oblige les gens à détruire les pommiers maintenant. Enfin, je sais pas, ça continue, mais il y a eu un moment où on les oblige à détruire, et on leur interdisait de garder des plants ou des graines. Il y a des inspecteurs qui venaient du ministère des Affaires de l'Agriculture pour obliger à la destruction, pour imposer la destruction des semences.
Je connais un résistant, moi, à Caen, qui a fabriqué à ses frais une espèce de petit, sur un hectare et demi, une espèce de conservatoire où il y a 40 pommiers différents.
Alors, il y a une autre question qui se pose quand on lit votre livre, c'est celui de la viande et enfin de la nourriture carnée, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des livres comme le vôtre sont des livres qui insistent uniquement sur les fruits et les légumes. Or vous soulignez bien le fait que l'alimentation carnée, elle a aussi des avantages et elle s'impose aussi.
Alors le livre, ce qu'il y a, c'est que il faut faire la différence entre aucun aliment n'est susceptible d'apporter la santé. De même que peu d'aliments sont susceptibles de détruire la santé. Donc moi je me rapproche plutôt d'un concept d'alimentation, c'est-à-dire d'un ensemble d'aliments. Alors L'alimentation carnée, pour en venir à votre question, c'est le type d'aliment qui a des effets positifs sur la santé, parce qu'ils apportent des protéines de très bonne qualité, du fer qui est facilement absorbable, parce que c'est ce qu'on appelle du fer héminique, c'est-à-dire qui est lié à une protéine qui s'appelle l'hème, qui fait l'hémoglobine. Donc le fer est très bien absorbé, par rapport par exemple aux lentilles qui contiennent également du fer, mais ce n'est pas le même
contrairement
fer.
Contrairement aux épinards qui n'en contiennent pas.
Les épinards contiennent beaucoup moins, contrairement à ce que Popeye laissait entendre. Donc, la viande apporte un certain nombre de macronutriments, de micronutriments, mais a aussi certains inconvénients. C'est-à-dire que les acides aminés, c'est-à-dire les constituants des protéines de la viande, sont des protéines soufrées. Et qui vont acidifier le sang. Comme c'est des acides soufrés, ça fait un petit peu d'acide sulfurique, si vous voulez, dans le sang. Le problème, c'est que cet acide sulfurique est un toxique pour l'organisme. Donc l'organisme trouve une solution pour combattre cela, c'est qu'il va faire du citrate ou du bicarbonate de calcium pour combattre, c'est-à-dire pour tamponner cette acidité. Et le calcium, il le trouve où ? Il le trouve dans les os. Donc de manger, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas manger de viande, mais c'est-à-dire que quand on a une alimentation trop carnée, on a tendance plutôt à se déminéraliser. Or, l'alimentation, c'est pour ça que je parle plus d'alimentation, c'est vrai que les fruits et les légumes sont très riches en potassium. Par exemple, la pomme de terre est très riche en potassium. Et à ce moment-là, ça évite à l'organisme d'aller puiser sur le calcium et de prendre du citrate ou du bicarbonate de potassium qui est trouvé dans les fruits et légumes pour venir combattre l'acidité apportée par le soufre. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'alimentation et pas d'aliments, parce qu'il faut pas... L'erreur serait que les auditeurs se disent « Bah tiens, j'ai entendu que tel aliment est bon. »
6 kilos de tomates par jour et je vais être sauvé.
La viande, c'est bon, ça donne des forces, j'ai mangé plein de viande. Donc c'est plutôt une question d'alimentation.
Et à propos de la viande, et on terminera avec ça si vous voulez, il y a quand même une chose qui est étonnante, c'est que dans l'histoire humaine, l'écriture nous dit que l'homme n'a pas mangé de viande jusqu'au déluge. Il ne se nourrissait uniquement de légumes et de végétaux, puisqu'il entretenait les meilleures relations avec les animaux. C'est après le déluge que le Créateur dit aux hommes, maintenant tu mangeras de la viande, parce que tu es dans un tel état de faiblesse, d'épuisement et de destruction intérieure du fait des crimes que tu as commis et qui ont provoqué le déluge, qu'il faut que tu reprennes des forces, et donc seule la viande peut te sauver. Et c'est tout à fait étonnant de trouver dans l'écriture et dans la tradition biblique la plus ancienne la même chose que ce que vous nous dites, c'est-à-dire que la viande, c'est aussi quelque chose qui permet de pallier certaines carences.
Moi personnellement, je serais plutôt poisson, si vous voulez, dans la genèse dont vous parlez, c'est que les certaines graisses qu'il y a par exemple dans la viande ou dans certaines céréales sont des graisses avec 20 atomes de carbone. Ça, c'est intéressant sur le plan biochimique et je vous explique ça de manière assez simple. Donc c'est des ce qu'on appelle des écosanoïdes, c'est-à-dire des chaînes qui ont 20 atomes de carbone et qui peuvent se révéler néfastes pour l'organisme. Or le poisson est riche en chaînes d'acides gras qui sont également à 20 atomes de carbone. Il y a une compétition entre les deux où le poisson sort gagnant, c'est-à-dire qu'il va se substituer aux mauvaises chaînes à 20 atomes pour finalement avoir un effet complètement inverse, c'est-à-dire que ce qui était inflammatoire avec les chaînes apportées par la viande ou par certaines céréales dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui devenait inflammatoire, ce qui devenait entraîne une coagulation du sang, finalement devient anti-inflammatoire, fluidifie le sang. Donc c'est si vous voulez, au point de vue il y a certains médecins qui pensent que l'homme était plutôt, je dirais pas un animal marin, je dirais pas jusque là, mais un être qui se nourrissait de poissons à l'origine, parce que ça va dans le sens de la vie, du premier sens de la vie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le rôle de l'aliment finalement de se substituer et de combattre la mort en substituant des aliments bénéfiques pour lui.
Pour une fois, Occident ne vaincra pas. Donc.
Et pourtant, vous écoutez Radio Courtoisie.
Merci, docteur Sénal.
Je cuisine, mais un laboratoire maintenant.
Alors, ce livre s'appelle Des aliments qui entretiennent votre santé, et le docteur Sénager viendra le présenter dimanche après-midi à mon stand.
Édition du Dauphin, n'est-ce pas?
Édition
pour
du Dauphin.
Le Dauphin des, à l'approche des vacances pour nos auditrices.
Ils font des très, très, très bons bouquins. Ce sont des gens extrêmement gentils, dynamiques et qui travaillent très bien. Alors, c'est un livre qui est en trois parties. parties. Première partie, les aliments, entre guillemets, santé. Deuxième partie, le mode d'action des aliments. Et troisième partie, l'alimentation suffit-elle, les compléments alimentaires. C'est très simple, c'est présenté par produit. Vous voyez, par exemple, l'asperge, on vous explique comment c'est fait, etc. L'asperge me domine, moi, personnellement. C'est un anti-hémorragique, anti-constipatif, c'est comme ça qu'on dit. On
prend un peu laxatif, oui.
Un peu laxatif sur les bords, qui combat la déminéralisation, enfin qui aide à combattre la déminéralisation osseuse, la fatigue, les maladies cardiovasculaires, qui nettoie l'organisme de ses toxines, qui protège les vaisseaux, qui évite la rétention d'eau, qui aide à combattre la spasmophilie, les troubles de l'humeur et les troubles de la mémoire. De quoi je parlais déjà ?
De l'asperge.
Ah oui, on allait manger des asperges.
Moi j'ai mangé des asperges, après j'ai mangé un peu de frites.
C'est extraordinaire dans l'asperge, c'est que c'est une des découvertes de ces dernières années, c'est-à-dire qu'elle contient également ce qu'on appelle les enzymes de phase 2, c'est-à-dire ce sont des aliments qui sont semblables à la lampe d'Aladin, et quand on frotte cette lampe d'Aladin, c'est-à-dire quand on mâche, ça, c'est comme un mouchoir qui frotterait la lampe d'Aladin, vous avez un bon génie qui sort, et donc qui s'appelle pour le chou le sulforaphane, pour l'asperge d'un isindole, et qui viennent nettoyer l'organisme et nettoyer non seulement les toxines, mais également son ADN. C'est pour ça que ce sont des aliments anticancéreux. Alors ça, c'est dans l'asperge, dans
le poireau. Le chou, c'est ça aussi.
Le chou, ah oui,
alors le chou, alors là, c'est un remède de bonne femme. Ça fait des millénaires qu'on dit, il faut manger du chou. Et ça a dominé nos sens pendant toute notre enfance. On rentrait dans les appartements, ça sentait le chou.
L'ail est riche dans cette substance-là.
Donc ce qui est bon fait plaisir, c'est une bonne nouvelle crainte.
Et il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Merci docteur Sénager,
je vous en prie.
Dimanche
avec plaisir.
Et on pourra vous interroger et vous demander des conseils de nutrition.
Oui.
Je signale d'ailleurs la réédition d'un livre qui a eu son succès il y a longtemps, mais qui est un livre tout à fait intéressant de Henri-Charles Geoffroy, dont on parlait tout à l'heure avec le docteur Masqui, qui s'appelle Nourris ton corps, précis d'hygiène alimentaire, qui est paru aux éditions Aquarius.
Vous l'avez lu ?
Pardon ?
Vous l'avez lu ?
Non, je ne l'ai pas lu, mais je connais bien les travaux de M. Geoffroy.
Non, je vous pose la question.
Nourris ton corps. Non, je n'ai pas besoin de le lire, je connais. Je m'occupe de ça depuis un certain temps. Mon père, si vous voulez bien sortir de votre hébétude pour quelques instants.
Je ne suis pas du tout hébété, mais je pensais que les Vendéens, je suis d'origine vendéenne, sont des ventres à choux.
Ah oui,
je me disais, au fond, si je suis encore debout, c'est peut-être que j'ai mangé beaucoup de choux quand j'étais petit.
J'ose dire.
Oui.
Oui, donc on a dit que ça allait bien. C'est vrai qu'on vous voit, vous êtes resplendissant. Dieu vous garde dans cette belle santé. Et vous allez atteindre maintenant vos 20 ans de sacerdoce.
Oui.
Et il y a une grande fête.
Il y a une grande fête.
Que vous avez eu l'excellente idée d'organiser le 5 juin en même temps que la fête du livre de Radio Courtoisie. Oui, bravo, merci.
Je ne savais pas que ce serait ce jour-là que serait la fête de Radio Courtoisie. Autrement, je ne me serais pas permis de lutter contre Radio Courtoisie. Je dois trop à Radio Courtoisie.
Non, mais c'est pas une lutte, au contraire, comme ça. Parce que vous avez combien d'invités pour l'instant ? Enfin, d'invités, de participants ?
Mange 500 personnes,
500
il y aura sûrement
personnes.
Beaucoup plus de personnes qui viendront pour la messe.
Qui viendront nourrir leur corps après avoir assisté à la messe que vous célébrez vous-même, alors.
Je célèbre cette messe d'action de grâce, ce sera la solennité du Sacré-Cœur. Oui. C'est vraiment une très très belle spiritualité que celle du Sacré-Cœur, surtout pour la résurrection de la France. J'aurai une chasuble avec un Sacré-Cœur et avec les phrases spes salus gallier.
Espoir, salut de la France.
Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de contradiction. Il me semble que vous êtes à côté de Béthune et que c'est quoi, 2 heures d'autoroute, 1 heure de train.
Oui, on peut aller les deux.
Voir,
on peut faire les deux. Oui, simplement, c'est la gare d'Austerlitz, c'est pas la bonne gare. Il faut quand même aller à la gare du Nord.
Voilà.
Bon, on vous redonne la parole dans une minute, puisqu'on arrive maintenant à la coupure. Vous aurez 5 minutes pour donner des nouvelles de.
Et puis l'adresse, parce qu'on a écouté à Lille.
Bien sûr.
Dans tout le Nord.
Voilà, alors normalement j'aurais voulu vous passer un disque de Mouloudji qui s'appelait Mon ami le gitan, je crois que c'est ça, non? Mais on l'a pas en
discothèque.
On l'a pas en discothèque, c'est dommage.
Raccourci, là, Mouloud et
le gitan est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus.
Ça c'est pas Mouloudji, ça c'est...
Non, Yves Montand, dans mon esprit. un peu plus longtemps. J'essayais de dire que c'était merveilleux de pouvoir écouter un peu plus longtemps que d'habitude notre générique. Cette belle chanson russe régimentaire récupérée par les rouges, re-récupérée par les blancs et qui reste fondamentalement une chanson russe de toute beauté et que nous aimons beaucoup. C'est pourquoi elle est votre générique, Serge. Vous étiez absent, vous êtes encore un peu absent et donc immédiatement, poupouch, j'en profite pour faire la promotion du Libre Journal, d'autant plus que beaucoup de nos auditeurs et auditrices le savent, vous n'aimez pas trop ça. Vous n'aimez pas trop qu'on fasse la promotion de votre...
J'aime pas le faire moi-même. C'est autre chose, mais si quelqu'un s'en occupe, je suis ravi. Il faut quand même pas être trop marmiteux. Hein.
Alors, je m'en occupe avant que vous ne poursuiviez l'interview du révérend Père Argorch pour dire que le numéro 351 du Libre Journal imprimé sort des presses aujourd'hui et que, eh bien, c'est toujours un heureux événement, mais ce numéro-là est particulièrement intéressant. D'abord parce que mon voisin immédiat, le divin marquis d'Olmeta, assure comme d'habitude sa chronique mondaine, mais elle est particulièrement mondaine, mais aussi céleste, on peut dire, puisque la vedette n'est nul autre que Benoît XVI. Je pense qu'on va garder, je ne sais pas si vous avez l'intention d'en parler ici, ou si on en garde, on en laisse la primeur au lecteur. On continue avec Monsieur Sarkozy et Madame. Alors, la presse, tous les médias bruissent d'allusions que font entre eux, pour leur bénéfice réciproque, nos confrères, qui savent exactement pourquoi, comment et avec qui Madame est partie, mais qui n'en font pas part à leurs lecteurs, à leurs spectateurs ou à leurs auditeurs, mais qui font des allusions, c'est-à-dire que, comme d'habitude, le milieu médiatique connaît la réponse à ces questions et s'en amuse et il fait allusion. Alors nous sommes contre la diplomatie secrète spécialement dans ces cas-là. Alors nous disons avec qui, comment et pourquoi Madame l'ex-future présidente de rêve, nouvelle Kennedy, est partie.
On dit avec qui, mais on dit pas comment quand même.
Un petit peu. Bon, en tout cas, de toute façon, je m'arrête là puisque, bien entendu, nous en laissons la primeur aux lecteurs du Libre Journal, y compris à ceux qui vont demander un spécimen du numéro 351. Alors, je termine rapidement ce survol du sommaire avec les noires combines de Chirac au Togo. Là-bas aussi, M. Chirac met le bazar, nous expliquant en détail pourquoi et comment. Nous expliquons comment on peut se ruiner en épargnant à perp, c'est-à-dire en écoutant sa banque qui vous propose, quand vous avez des petits revenus, un plan d'épargne retraite soi-disant populaire, alors que des spécialistes que nous citons longuement vous prouvent, vous démontrent que ce genre de produit, le PERP, est réservé aux gros revenus, à moins qu'on veuille se ruiner décidément. Et puis, j'y faisais allusion tout à l'heure, un article délicieux de François Brignot, il nous a fait un feuilleton préélectoral, et là c'est le bonheur post-électoral, il nous explique dans un article très encore mieux écrit que d'habitude, un de ces articles, oui, qui ont fait de lui une signature historique et une des signatures favorites de la presse patriotique, combien il a eu peur, et ses réactions au chaos, comme annoncé bien Raffarin. Voilà, donc ce Libre Journal, on peut le retrouver. Serge, est-ce que notre site internet est rétabli? Ah, ouf. Parce que vous m'avez fait la peur de me dire il y a quelques jours qu'il était suspendu. Donc, pour nous découvrir gratuitement nos meilleures archives sur internet, donc c'est francecourtoise.info. Si on veut connaître les aventures du petit Nicolas dans leurs détails les plus sordides, on demande donc le numéro 351 contre un carnet de timbres ou 5 euros. Si on veut s'abonner pour un an donc à ce décadaire, on envoie un chèque de 110 euros. 4 places donc à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75 010, Paris, j'ai dit.
En vos grades et qualités. Merci, Goffman. Mon père, je me retourne vers vous parce qu'il faut vite que je me confesse d'avoir prononcé des paroles
sataniques.
Non pas sataniques, gnostiques. Donc, comment va le village de Riomont?
Le village de Riomont va très bien. Vous savez qu'on est passé à travers les tempêtes, et quand il y a du calme, on l'apprécie, on respire en haut de notre promontoire. Et vraiment, en ce moment, il y a toutes les effluves des fleurs, des arbres. Vraiment, j'espère qu'on sent la bonne odeur du Christ en même temps. Et c'est très très beau, parce que bientôt, donc samedi, nous aurons une grande veillée sous le signe de Charles de Foucault, donc sous le signe du Sacré-Cœur. Et nous espérons beaucoup qu'il sera béatifié. On ne connaît pas encore sa date de béatification. Et puis le lendemain, donc, il y aura la grand-messe à 10h, qui sera en plein air, parce qu'il y a beaucoup de monde. Notre église n'est pas encore construite totalement. Il y a un clocher seulement. Donc aussi, on recherche des dons pour la construction de cette église. C'est très rare qu'on construise des églises actuellement. Il y a plutôt beaucoup de mosquées, particulièrement dans nos régions du Nord. Et puis, il y aura donc un repas, un vin d'honneur. J'aurai ma famille autour de moi. Et puis, il y aura Monseigneur Vac, Monseigneur Vladimir, le Père Jean-Noël de la Transfiguration, d'autres prêtres qui viendront pour cette fête. Et là, je vais remercier le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi, parce que comme vous le savez, j'étais retardé au sacerdoce. J'ai compté tout à l'heure, j'étais ordonné seulement à 38 ans à cause de la crise de l'Église et de l'hérésie moderniste. Tout à l'heure, on parlait des phénomènes électromagnétiques. Je pense que l'Église a été victime de phénomènes terribles, et au niveau nutritionnel, eh bien, ça a été terrible aussi, puisque les âmes n'ont pas reçu le corps du Christ. On a parlé très peu de la transsubstantiation, et l'âme est comme une éponge, elle n'a pas reçu l'eau de la grâce, et il y a eu un dessèchement des vocations. Et je vais prier aussi pour ces prêtres que j'ai connus, qui sont morts de chagrin et qui ont été abandonnés, poursuivis, comme le docteur tout à l'heure le disait, pendant 30 ans, qui ont été poursuivis et qui ont été persécutés, qui sont morts de chagrin. Alors voilà, donc ce sera une fête, ce sera pas triste du tout, mais je tiens à évoquer tous ces mystères douloureux de mon âme auprès de ces prêtres qui m'ont montré le chemin du ciel.
Et le village de...
D'enfants
Non, le village de... Pas d'enfants d'Orion, mais le village breton, le village qui résiste, le dernier petit village.
Le village breton qui se trouve près de l'Orient, le Gerveur, qu'on appelle le Gerveur le Christ, le grand village du Christ, eh bien, continue à être restauré petit à petit. On va sortir une magnifique plaquette en couleur pour tous nos bienfaiteurs, afin qu'ils puissent trouver de nouveaux donateurs. Il faut trouver des nouveaux donateurs pour sauver ce village. Et cet été, 4 de nos troupes scouts seront en juillet au Gerveur. Il y aura une grande veillée aussi à la fin du mois de juillet pour tous ceux qui voudraient venir nous rejoindre. Voilà.
Moi, je voudrais saluer la qualité de la communication imprimée pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur. Il faut dire que cette communication, allez sur le site, c'est riomont.net, je crois. Et d'une manière générale, que ce soit sur Internet ou l'imprimé, la communication de Riomont est très belle et très réussie. Je voudrais, en tant que modeste communicateur, journaliste moi-même, la saluer profondément.
Ça nous plaît beaucoup que vous disiez ça, parce que c'est vrai que c'est très important, alors qu'on nous a réduit à être dans un petit coin, qu'on nous a mis en quarantaine depuis 40 ans, qu'on puisse s'exprimer enfin, puisque beaucoup de télévisions, de radios, toutes d'ailleurs, nous refusent. C'est vrai que Radio Courtoisie permet d'être aussi la toute petite voix de Riomont qui résiste.
Alors, on va, selon un rituel maintenant bien installé, vous demander les parce que vous avez des choses compliquées. Il faut, si on veut payer pour l'église, c'est pas la même chose que pour le Gerveur. Si on veut donner de l'argent pour les enfants. Alors, pour les nouveaux auditeurs, je précise quand même que le village d'enfants de Riomont, c'est un vrai village avec des maisons comme un village qui est construit sur une butte à Riomont à côté de Liévin, et dans un paysage extraordinaire qui est le paysage de Notre-Dame de Lorette, un paysage qui a été en quelque sorte baptisé par le sang des soldats français, et qui est un lieu de civilisation probablement préhistorique déjà.
Oui, il y avait des Gaulois qui préhistoriques, ensuite il y a eu des Gaulois, et puis des Romains, des Mérovingiens.
Voilà. C'est un village qui ressemble à un village de Blanche-Neige, avec une jolie petite chapelle, des petites maisons, etc. D'ailleurs, il va y avoir prochainement une grande église qui est en construction. Et comme ces prêtres-là qui trouvent qu'ils n'ont jamais assez de travail, ils ont en plus entrepris la reconstruction, la restauration d'un village, d'un autre village en Bretagne, qui était un village complètement abandonné, qu'ils sont en train de redresser et de restaurer. Et tout ça sert d'une part à accueillir des enfants qui sont des enfants défavorisés, comme on dit, des enfants des corons, et puis d'ailleurs, leur donner une éducation et une instruction chrétienne fondée sur les principes scouts. L'idée géniale de faire, c'est une troupe scout qui fait de l'instruction, ou c'est, si on veut, un collège qui a adopté les méthodes et les règles du scoutisme. Le résultat est magnifique, les gosses sont superbes.
Samedi matin, on va baptiser deux petits garçons délicieux qui viennent d'arriver, qui sont vraiment des gavroches, c'est vraiment extraordinaire.
Alors, si on veut les aider, le village de Riomont, il faut envoyer des chèques au village d'enfants de Riomont.
Pour l'œuvre de Riomont, c'est l'association Notre-Dame de Riomont. Donc là, vous aidez directement les enfants.
Voilà.
Cet argent, c'est pour les enfants.
Pour participer à la construction de l'église.
Sainte-Croix de Riomont.
Sainte-Croix.
On peut verser aussi à la fondation des monastères pour les plus grosses sommes.
En indiquant
que c'est pour Riomont, surtout ne pas l'oublier parce que ça partirait ailleurs. C'est déjà fait. Et puis. Pour le Gerver-Locrist, pour le village breton, eh bien, les scouts et guides de Riomont. Il faut verser aux scouts et guides de Riomont.
Je répète, trois moyens d'aider, en dehors du fait que vous irez, vous pouvez aller ou samedi soir, ou dimanche toute la journée, ou dimanche partiellement, une partie de la journée, à Liévin, c'est pas loin du tout, et ça vaut le coup de voir ce village qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc si vous y allez, vous participerez aux festivités pour le 20e anniversaire du sacerdoce du Père Argouache, ça vous permettra de faire sa connaissance. Et si vous voulez aider. Donc pour la construction, pour le village lui-même, c'est
Notre-Dame de Riomont,
association Notre-Dame de Riomont. Voilà. Pour l'église, c'est Sainte-Croix de Riomont, et pour le village, c'est Scout et guide de Riomont.
Nos auditeurs restent le stylo en l'air en attendant que vous donniez le numéro de la boîte postale et le code.
Alors village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801 Liévin, Liévin. CEDEX.
Et l'adresse internet, elle est dans chaque numéro, dans tous les numéros depuis 2 ou 3 ans du Libre Journal, Riomont, Riaumont.net.
Merci mon père, vous partez pas tout de suite, on se voit tout à l'heure.
Oui, je sais que vous pouvez pas venir jusqu'à Riomont, alors je suis venu à vous pour vous remercier avec émotion de tout ce que vous faites pour moi. J'arrête parce que j'aurais une larme qui risque de perturber, de faire un champ électromagnétique qui embêterait tout le monde.
Bien, et ben je vais vous demander donc de libérer la place pour Jean Léo, alias Jean Paul, non pas alias, son vrai nom c'est Cerbera. Je dis ça parce que chez nous dans la famille tout le monde connaît Pascal Cerbera, mais il a décidé de faire un livre sous le nom de Jean Léo, Jean Léo, Jean le Lion. Pourquoi avez-vous décidé d'un seul coup de prendre un pseudonyme puisque vous le dévoilez comme ça
Le pseudonyme, c'est Léo, c'est mon prénom et c'est une coquetterie d'auteur. Vous voulez que je vous en dise la vraie raison.
Ouais.
Eh bien comme Romain Gary et Émile Ajar, j'ambitionne d'avoir deux fois le prix Goncourt.
Ah, c'est bon.
Donc je publie sous le terme de Jean Léo une certaine littérature et avec le nom de Cerbera une littérature plus engagée peut-être. Voilà.
Alors Jean Léo donc a écrit un très joli petit livre qui est paru aux éditions SDE,
Société
et pas SDB, la Société des écrivains.
Éditeur.
Ah ben oui, c'est vrai. Ouais. Et ça s'appelle Diogène, le cynisme et la grâce, roman philosophique. Alors, un roman philosophique en 2005, comme disait l'autre, ça veut dire quoi en fait, roman philosophique ?
Eh bien, j'ai pris la forme du roman, comme vous l'avez constaté, puisque on assiste aux pérégrinations de cet élève en Sorbonne, nommé Diogène, dont je ne dévoilerai peut-être pas, moins que vous le souhaitiez, la personnalité.
Ah non, il faut garder le secret,
garder
parce que c'est
secret.
Trop joli.
Il
c'est
faut garder
trop,
le secret. Et donc, le roman permet d'être très facilement lu parce que c'est agréable. C'est un mode d'écriture qui permet à tout un chacun de suivre une histoire. Mais l'ambition de ce texte, c'était quand même une certaine approche philosophique de quelques sujets. Et notamment, moi qui ai commencé par de la poésie. Dans ce livre, je me suis posé la question, est-ce que le poète, est-ce que avec le cœur, on peut sentir le divin? Est-ce qu'on peut appréhender Dieu avec son cœur, avec une âme poétique, avec un texte poétique? Je ne suis pas un théologien, vous l'avez constaté, plusieurs personnages ont des prises de position contradictoires, mais tout le thème du roman, c'est de s'interroger sur Dieu dans le monde d'aujourd'hui, finalement, où le matérialisme étant ce qu'il est, l'homme est coupé de la spiritualité, est coupé du ciel. Et en tant que médecin, je le constate tous les jours, où on ne se préoccupe plus que du corps, sans jamais se soucier de l'âme et même de l'esprit. Donc il y a là quelque chose qui me paraissait intéressant, de vulgariser une recherche poétique de l'idée de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'y serais arrivé.
Mais en tout cas, le résultat, quand on lit votre livre, c'est qu'on en sort réjoui au sens de la jouissance intellectuelle et du plaisir de la lecture, parce que d'abord il est magnifiquement écrit, alors ça c'est vraiment, l'écriture est parfaite, et puis il est très drôle au fond. Alors ce qui est incroyable, parce que si on lit la dernière page, la philosophie et la religion peuvent-elles rendre les hommes meilleurs? C'est la question que se pose Diogène, étudiant très particulier. Il va tenter d'en trouver la réponse en suivant son maître qui enseigne dans la sainte prestigieuse de la Sorbonne, de rencontres en expériences plus étonnantes les unes que les autres. Le malheureux Diogène va aller de déception en désillusion. Pourtant, quelques-uns des personnages qu'il croise semblent habités d'une lumière qui les distingue du commun des mortels. Et si la réponse qu'il cherche avait pour nom la grâce, on se dit, bon, on va pas rigoler quand même toutes les pages. Or, c'est vraiment très très drôle. Il y a des scènes, notamment quand la visite au vieux philosophe.
Oui.
Nous restions, mon maître et moi, sans rien répondre, émus jusqu'aux larmes par la confession du vieux philosophe. Je n'avais jamais pensé jusqu'à ce jour à quel point la vieille c'est une expiation. Dieu avait fait bien les choses. Il devait être plus facile de mourir ainsi quand il n'y a plus rien à regretter. J'ai toujours pensé, moi. Nous prîmes congé du vieil homme. Dans le couloir, le vieux en képi avait encore arrêté la femme en voiture roulante. Cette fois, vous avez franchi les lignes jaunes, tempêta-t-il. Montrez-moi votre permis de conduire. La vieille lui présenta sa carte de cantine. Il maugréa un moment, puis dit, je vous enlève 2 points. Maintenant, circulez. Vous gênez le trafic. Il devrait lui faire passer l'alcotest, pensais-je. On sait jamais. Au bout du couloir, le téléviseur posté à la même place avec la même comateuse en face proposait un reportage sur la vache folle. Le vieux en fauteuil électrique traînait lui aussi dans le coin. Ram tam tam, dit-il en nous apercevant. Bonjour, monsieur, répondis-je, surpris par cet idiome où bonjour et bonsoir se disaient de la même façon. Voilà.
C'est une histoire tout à fait vécue, parce que c'est dans une maison de retraite, effectivement, que cet aphasique faisait ram tam tam, et la dame qui regarde la télévision et qui fait coin coin, c'est aussi une histoire vécue. Donc j'ai quand même basé ce livre sur des expériences humoristiques. Vous parliez d'humour. Moi, j'aime beaucoup La Plume de Voltaire. Et ce livre a été inspiré par le Candide de Voltaire. Simplement, la philosophie n'est pas tout à fait la même.
Pas vraiment.
Voltaire s'est arrêté à l'idée que finalement, c'est le jardin d'Épicure qui peut rendre les hommes heureux sur Terre. Et moi, je pose cette question.
Et comme médecin, le jardin d'Épicure, c'est quelque chose qui vous convient
pas. Exactement. Et donc, finalement, moi, je me pose la question de la notion de la grâce, comme vous avez pu voir. Alors, évidemment, c'est cynique aussi, hein. Diogène, c'est un philosophe cynique. Il y a du cynisme dans mon. Vous avez vu cette scène de l'enterrement, par exemple.
Oui, qui est poignante, d'ailleurs.
Qui est poignante, parce que, effectivement, c'est souvent comme ça, malheureusement, que ça se passe. Et ça devrait pas se passer comme ça.
On a l'impression d'être dans un film italien. La description que vous faites de cet enterrement, ça fait penser à ces films hyper réalistes, enfin réalistes, oui c'est ça, le cinéma réaliste italien, et c'est très bien, encore une fois, très bien écrit, très bien raconté, on est dedans, on voit, et puis on sent cette espèce de chape de tristesse indicible qui s'abat, et ce pauvre Diogène...
Et ce pauvre Diogène passe finalement de cette candeur qui le fait très semblable à Candide au départ, et puis petit à petit il va découvrir ces personnages qui sauvent l'humanité en quelque sorte de toutes les autres, parce que les philosophes dont je me moque très gentiment, et je me moque bien sûr de la Sorbonne, ces philosophes n'ont pas une vie en adéquation avec la philosophie qu'ils enseignent dans le roman, mais quelques-uns sont touchés par l'Esprit Saint. C'est un petit peu ces personnages-là qui rachètent l'humanité. Ceci dit, j'ai fait ça sans prétention et sans vouloir donner quelques leçons que ce soit.
C'est pas du tout une leçon ni
c'est absolument pas.
Il n'y
a pas de leçon idéologique ni de morale.
C'est joli, c'est vraiment un joli livre.
Et vous me parliez de l'écriture. Alors moi, je suis très attaché à l'écriture. Les auditeurs de Radio Courtoisie me connaissent puisque il y a 2 ans, on a lu une pièce que j'ai écrite en vers et qui a été jouée à Paris. Donc beaucoup d'auditeurs sont venus la voir.
Vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur AZF, si je ne
me trompe. Je suis aussi l'auteur d'un livre sur AZF et du roman Le Temps des loups, qui est ce roman.
On peut dire aux auditeurs que vous êtes une personnalité toulousaine et que vous étiez malheureusement bien placé
pour faire
des révélations sur AZF.
Exactement. Alors ce livre sur AZF actuellement, il est épuisé, mais c'est vrai que ce qu'il me plaît de défendre, c'est la langue française. Et voyez par exemple le résultat, pour parler une minute politique, le résultat des élections de l'autre soir, où tous ces braves gens qui ont voté non ont eu l'impression de sauver la France. Moi, j'ai pas eu cette impression. C'est bien, mais je crois que la France que nous voudrions sauver, elle a déjà disparu. C'est la France de la culture, c'est la France de la littérature.
Écoutez, excusez-moi de vous couper, mais vous démontrez le contraire par ce bouquin. Parce que tant qu'il y aura des gens de votre
âge, j'allais dire, tant qu'il y aura Radio Courtoisie, ça ne sera pas perdu. Mais finalement, c'est sur ce terrain-là que j'ai envie de me battre que je me bats plus que sur l'idée d'une souveraineté nationale qui, malheureusement, aujourd'hui, par exemple, à mon sens, ne veut plus dire grand-chose.
On peut en parler, mais oui. C'est certain que si cette souveraineté, elle est placée sous le contrôle des gens qui sont actuellement au pouvoir, elle n'a aucun sens. Mais ce qu'il faut, c'est... ce qu'il faut, on le sait bien, ce qu'il faut.
On le sait bien.
On va pas revenir là-dessus. En tout cas, votre livre fait partie de cette manifestation qu'il existe encore une façon d'écrire, une façon de penser, une façon de dire les choses qui est conforme à la grande tradition de civilisation française et qui prend soin d'écrire proprement et d'une façon élégante et heureuse.
Je crois qu'il faut
dire des choses graves d'une façon légère, ça c'est très important, je trouve. C'est tellement français.
J'avoue que le compliment que faisait Stendhal sur Corneille en disant de lui qu'il avait l'esprit français, je crois que c'est très important et c'est très important dans la littérature et dans la plume d'aujourd'hui. Vous m'avez parlé de ce livre sur AZF. Vous voyez, ce livre sur AZF était un livre de révélation, mais c'était pas un livre de littérature. À ce sens-là, il m'intéressait moins. Alors que dans le temps des loups, j'avais essayé non seulement de faire de la politique fiction, mais très réaliste, mais également de mettre une certaine plume, une certaine beauté. Je crois que la beauté, le sens artistique fait partie des activités supérieures de la conscience avec le sens moral et avec l'aspiration spirituelle. Ces trois activités que je qualifie d'activités supérieures de la conscience et qui sont, comme nous avons des jambes pour marcher, nous avons un cerveau qui a ses capacités de fonctionner selon ces activités supérieure de la conscience. Et malheureusement, la société moderne ne favorise en rien ces activités supérieures de la conscience. À partir de là, les hommes sont amputés de leur nature humaine et ne peuvent ni connaître le bonheur, ni connaître la sérénité, ni vivre en bonne santé, parce qu'ils ne fonctionnent pas en développant et en travaillant sur ces activités supérieures de la conscience. Et donc, c'est un domaine qui me paraît essentiel, et l'élévation, l'art qui nous élève grâce à la beauté des textes, grâce à la poésie, c'est une voie spirituelle qui nous amène à Dieu. C'est un petit peu ça que je dis aussi dans le roman et que j'aurai le plaisir de redire dans le prochain livre qui traitera de la médecine et que je suis en train de terminer et qui sera aussi un livre philosophique là sur le sujet.
Alors, il y a un secret qu'on peut révéler, c'est que vous êtes aussi l'auteur d'un drame, d'une pièce de théâtre qui a été dite à l'antenne de Radio Courtoisie, qui s'appelle La Chambellée, qui est une pièce dans la grande tradition de
racinienne.
Racinienne, et qui raconte l'histoire d'ailleurs de la dame qui
une histoire romancée
voilà. dont le personnage central est la dame qui faisait bénéficier Racine de ses faveurs. Donc vous baignez tout le temps dans cette ambiance du classicisme de la...
Je crois que le classicisme, le XVIIe siècle français, c'est finalement notre civilisation qui est là, parce qu'il y a eu on a retrouvé l'antique, donc c'est le lien que nous avions perdu et que nous avons retrouvé grâce à la Renaissance italienne puis à la Renaissance française, c'est le lien que nous avions perdu avec la Grèce et avec Rome qui est revenu en force à l'époque du XVIIe siècle. Donc je dirais que pour nous français, le XVIIe siècle, c'est notre âge d'or au point de vue culturel, au point de vue littérature et au point de vue artistique en général. Donc c'est vrai que je suis très sensible à garder une... C'est pas possible de garder une langue telle que celle qui était... C'est malheureusement une langue morte aujourd'hui. Je me souviens d'une anecdote intéressante. J'étais à la Comédie Française à une représentation d'Andromaque et à côté de moi, il y avait un Américain. Et il suivait son texte. Et à l'entracte, il me disait « Expliquez-moi, parce que là, j'ai pas bien compris ce qui se passait. » Il était passionné. Il était depuis un an en France. Il était passionné par notre littérature. Et alors, je lui disais « Vous savez, pour nos enfants... nos enfants ne comprennent pas plus Racine que vous, voire moins, parce que malheureusement, Racine est une langue morte, à cause évidemment de l'éducation que nous subissons et que nous connaissons. » Et cet Américain, on sentait quel amour il avait pour la littérature française, et c'était une leçon, c'est une leçon très très intéressante, et on sentait qu'il regrettait de ne pas maîtriser notre langue, notre si belle langue, pour pouvoir saisir ses subtilités.
Alors, j'ai l'habitude de... Moi, avant de l'ouvrir un livre, je lis la première phrase et la dernière. Puis après, je vois si j'ai envie de boucher le trou.
Oui.
Et alors là, je lis donc la première phrase. « Je vis dans une vaste maison entourée de vieux chênes, sur cette aire de Sologne encore préservée des assauts du bitume et du béton de la capitale proche, et de ces forêts métalliques de poteaux électriques et de relais hertziens, véritable jungle des villes. » Là, c'est quand même... On est dans le sujet de ce soir.
Oui,
encore.
Oui, oui.
Et la dernière phrase... Alors, vous pouvez goûter l'écriture. Et la dernière phrase, alors c'est pas une phrase, c'est plutôt un paragraphe. « Ainsi, cette histoire n'avait été qu'un rêve. Pourtant, comment t'expliquer, alors que je me fusse endormi près de la cheminée et que je m'éveillasse près de la mare, ce mystère me parut insondable. Non, sans doute, est-il une part de vérité dans chacun de nos rêves. Du moins, je veux le croire.
Mm-hmm. »
Bon, écoutez, moi, je trouve que là, on a tout de suite envie de remplir l'espace entre les deux phrases. Et je recommande vraiment aux auditeurs de le faire.
Il y a un monsieur qui s'est fait engueuler ce matin pour avoir employé l'imparfait du subjonctif. C'était sur France Inter. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Et monsieur Cerbera, nous vous félicitons.
De là.
Alors voilà, c'est un livre que Pascal Cerbera a signé Jean Léo, qui s'appelle Diogène, le cynisme et la grâce, roman philosophique, paru aux éditions SDE, Société des écrivains, et que vous trouverez dimanche au stand du Libre Journal du mercredi soir, en présence de son auteur, qui vous le dédicacera et qui apportera toutes les lumières que vous pourrez souhaiter sur les autres sujets qu'il a traités. Même s'il n'est pas absolument écrivain ravi d'avoir écrit le livre sur AZF, ça reste quand même même si ce n'est qu'une enquête journalistique, c'est bien mieux écrit que certains livres qui aujourd'hui... se disputent les rayons des grands marchands de livres.
Je serai aussi le samedi.
Et le samedi, voilà. Bien sûr, vous serez avec le docteur Masqui. Oui, c'est vrai d'ailleurs.
D'accord.
Vous serez avec le docteur Masqui aussi à la librairie France Livre. Donc, si vous ne pouvez pas venir dimanche, ne soyez pas désespérés. Vous pouvez, dès samedi, vous rendre à la librairie France Livre pour faire dédicacer ce livre en fonction du vieux principe. Si il pleut dimanche, la manifestation aura lieu le samedi.
Et si vous voulez obtenir un catalogue gratuit des publications des éditions
SDE, vous pouvez écrire au 147 rue Saint-Honoré, Paris 1er, et vous pour demander donc un catalogue.
On va peut-être des livres qui ne seront pas appréciés de tout le monde. Hein.
Alors, Éric Lebec me fait savoir qu'il sera à la fête de Radio Courtoisie pour présenter son livre consacré à Benoît XVI, dont le titre, vous allez me le rappeler.
On le cite dans le Libre Journal. Ouais, alors, laissez-moi tourner quelques pages et arriver à la chronique mondaine de notre divin marquis. Benoît XVI m'a dit, Éric Lebec m'a fait envoyer son Benoît XVI, les défis d'un pape, l'archipel, l'éditeur, éblouissant, fin, documenté, brillant. Là, vous êtes à couteau tiré avec Éric Lebec, mon cher marquis.
Donc il me dit qu'il sera là dimanche avec nous et que j'en profite de ce petit mot pour m'indiquer que l'ancien secrétaire de Jean-Paul II, Monseigneur Stanislas, vient d'être nommé archevêque de Cracovie. Voilà. Je me tourne maintenant vers un autre auteur qui m'a donné beaucoup, beaucoup de plaisir aussi. J'ai lu des bons bouquins ces temps-ci, je dois dire. Alors là, ça c'est un régal aussi, parce que on aime l'histoire, et puis il y a un domaine de l'histoire de France qui est très méconnu, c'est l'histoire du peuple franc. Parce que c'est une époque ténébreuse, obscure, où tout a été dit et le contraire de tout. On ne sait pas trop si c'était des bêtes sauvages ou des êtres humains, s'ils étaient catholiques, ariens, rien du tout, adorateurs de l'oignon, odinistes. Et voilà que Jean-Pierre Boisette arrive avec deux livres, un livre en deux gros volumes, Le Royaume de Soissons et Le Palais de Quercy, et qu'il nous raconte l'histoire du peuple franc. Mais il le fait d'une façon, et c'est pour ça que je l'invite ce soir, qui est extrêmement intelligente et originale. C'est-à-dire qu'au lieu de nous... Je voudrais pas être désagréable avec les autres historiens, mais au lieu de nous canuler avec des dates, des batailles, des considérations philosophiques ou pas philosophiques, mais politico-historiques généralement anachroniques sur l'histoire, eh bien, il fait une chose formidable, il donne la parole aux acteurs. Et chapitre par chapitre, on a... Clotaire qui explique, Clovis qui raconte, Clotilde. On a donc tous les personnages de cette époque qui racontent, qui livrent leur témoignage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un livre de cette façon? Parce que je ne crois pas que ça ait jamais été fait.
Alors il y a le livre et puis il y a le thème, n'est-ce pas? Il y a l'histoire du peuple franc, comme vous l'avez dit. Je crois que vous avez fait une très bonne introduction. En général, on sait quand ça commence, c'est Clovis. Oui. On ne sait pas quand ça se termine.
Alors, déjà, on peut dire que ça ne commence pas vraiment à Clovis, parce que c'est déjà commencé à Clovis.
Mais surtout, il faut savoir que ça se termine très tard. Et qu'à Bouvines, donc en 1215, on a tous appris ça à l'école primaire, lorsque Philippe Auguste s'adresse à ses soldats avant la bataille, il dit « Peuple franc ». Donc, à Philippe Auguste, nous sommes encore avec les Francs. Et c'est la fin. C'est-à-dire que le peuple franc, et je dirais même la nation franque, a vécu 8 siècles. Et c'est à partir de Philippe Auguste, et plus encore à partir de Saint-Louis, que la titulature des rois de France change. Plus exactement, la titulature du roi des Francs, car Philippe Auguste est encore un roi des Francs, le royaume des Francs, Regnum Francorum, puisqu'on écrit encore largement en latin, passe et devient roi de France. C'est un changement tout à fait fondamental, parce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là seulement que la France apparaît. Et donc pendant 8 siècles, il y a eu un royaume des Francs. Et ce royaume des Francs a été complètement oublié, complètement occulté, pour des raisons qu'il est intéressant d'ailleurs de creuser. En gros, nous savons tous que l'histoire de France a été écrite au XIXe siècle par des historiens de la Troisième République, et un petit peu avant. Et les Francs, vous l'avez très bien dit aussi, ont mauvaise réputation.
Ils étaient un peu boches, quoi.
Voilà, ils ont mauvaise réputation pour 36 000 raisons, n'est-ce pas? Mais en gros, en particulier à partir de 1870, leur passé germanique, n'est-ce pas, pèse lourd dans la balance.
C'est vrai que c'était assez difficile de convaincre les Français, d'une part, que l'ennemi héréditaire était de l'autre côté du Rhin, et d'autre part, que grand-père venait de l'autre côté
exactement,
du Rhin. C'est une histoire de famille un peu compliquée.
Il y a une autre raison qui, elle, est encore peut-être plus importante, et qui date de la Révolution française, car vous savez peut-être, on l'a oublié, mais que pendant la Révolution française, les Francs étaient encore plus mal vus, parce que tous les historiens de l'Ancien Régime, sous la royauté, donc en particulier au XVIIIe siècle et au XVIIe, les historiens de l'Ancien Régime ont progressivement émis cette idée qu'il y avait deux peuples en France, on va dire les Gaulois colonisés et les Francs qui étaient les nobles. Et lorsque un certain nombre d'historiens d'origine noble ont mis en avant leur quartier de noblesse et ont dit nous autres, nous sommes descendants des Francs, eh bien ça leur est revenu dans la figure, n'est-ce pas, avec en particulier l'abbé Seyès, qui peu avant la Révolution leur a dit, eh bien puisque vous êtes retournés dans vos forêts de Franconie, n'est-ce pas, vous êtes finalement des sauvages, des barbares, et je pense que l'abomination des crimes qui ont eu lieu pendant la Révolution, il y avait un aspect raciste, anti-nobiliaire, et cet antinobiliaire, ce côté antinobiliaire était très largement lié au fait qu'on voyait une autre race.
Il y a cette dimension, certainement. Alors, il y a une autre hypothèse qui est peut-être liée, d'ailleurs, c'est l'hypothèse que la Révolution, la terreur, c'est la vengeance des Néandertals.
La vengeance des Gaulois aussi.
Oui, mais c'est les Néandertaliens contre les Cro-Magnons, les Gaulois contre les Francs,
voilà. Mais en tout cas,
les Narbonoïdes contre les...
En tout cas, la Révolution française s'est voulue gauloise et romaine, et surtout pas franque. Parce que
et ça francs... dure encore aujourd'hui, puisque quand on critique l'histoire enseignée par nos grands-pères, qui disaient nos ancêtres les Gaulois...
Ah, oui. Oui, mais nos ancêtres de Gaulois, c'est une invention typiquement la Troisième République. Complètement.
Mais aujourd'hui, on continue à colporter ce truc en le critiquant. Mais personne ne dit nos ancêtres les Francs. Alors qu'on s'appelle des Français, quoi.
Exactement. Alors que ça va. Donc la France, on peut dire, c'est une histoire qui s'est bâtie sur un nom, mais qu'elle s'est empressée d'oublier, finalement. Il y a quelque chose de freudien, si vous voulez, dans cet oubli franc de l'histoire française.
Pour terminer sur
la forme que vous évoquiez également en introduction, sur la forme, au fond, c'est un peu lié au fond aussi, parce que, si vous voulez, l'historien, il se met aujourd'hui, et du haut de sa science, il explique ce qui s'est passé. Il s'est passé, et comme lui, il a vécu, il vit maintenant, n'est-ce pas, forcément, il connaît toute l'histoire, si je puis dire. Moi, j'ai voulu me placer à une époque, n'est-ce pas, où l'histoire n'était pas encore écrite. Et par conséquent, où tout était possible. Et bien évidemment, les Francs ne connaissaient pas la France. Bien évidemment, ils ne connaissaient pas l'hexagone républicain, n'est-ce pas? Et donc, quand on se met dans la peau de ces personnages, on vit complètement une époque. On épouse aussi la cohérence et la cohérence psychologique et sociologique de l'époque. Et je pense que, finalement, c'est un point de vue historique aussi.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous... Ouais, je l'ai pas lu, le livre, mais vous leur avez tendu le micro, quoi, en quelque sorte.
Vous leur avez tendu le micro,
absolument. C'est un procédé rhétorique qui s'appelle prosopopée. Donc, je suis obligé de dire que Monsieur Boisette n'en est pas absolument l'inventeur,
mais qu'il est effectivement
très rare et très élégant.
Et c'est surtout dans le domaine de l'histoire, parce que c'est un livre d'historien, c'est pas un roman.
Absolument.
Tous les faits.
Je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, c'est l'autobiographie d'un peuple. Voilà. C'est ça l'idée. Ouais. C'est l'autobiographie d'un peuple.
Alors on apprend des choses. Moi j'étais abasourdi. On est quand même très très proche. à l'époque de Clovis, de la sauvagerie absolue. On voit par exemple une servante qui va devenir la maîtresse
Frédégonde,
qui est un être
frénétique.
Frénétique, ténébreux.
C'est une sorcière.
Alors qu'une sorcière avisée, car elle se contente pas de faire boire le bouillon de 11h, elle organise des choses qui obligent les gens à s'entretuer, voilà. Le père à tuer son fils.
Mais il faut se replacer, encore une fois, dans l'époque. Il faut bien voir, dans l'époque, qu'est-ce que c'est cette époque de Frédégonde? C'est une époque où, sur le plan, des croyances, on est dans un monde où le christianisme et les anciennes religions franques, les anciennes religions germaniques, et les anciennes religions gauloises, celtiques, n'est-ce pas, tout ça se mélange.
C'est très mélangé. N'est-ce
pas, tout ça se mélange, et par conséquent, le christianisme émerge peu à peu. N'est-ce pas. Ce qui m'a intéressé également, si vous voulez, c'est l'émergence progressive de la religion chrétienne, finalement, dont les Francs ont été un vecteur important.
On voit bien comment il émerge. C'est-à-dire que, par exemple, la divinité du Christ, et on comprend mieux l'arianisme, par exemple, parce que, au départ, c'est évident que d'ailleurs c'est contenu dans l'histoire classique l'histoire connue de Clovis, mais on voit bien qu'en fait eux ils attendent des dieux qui rendent des services, quoi. Il faut pas se connaître, c'est pas un bon si tu me donnes un coup de main, je veux bien te reconnaître, autrement tu vas te faire cuire un œuf, c'est ça l'histoire. Et alors ils essayent, ils ont leur dieu, ils leur font des prières, ça marche plus ou moins bien, puis ils disent on va essayer Jésus-Christ, après tout c'est un dieu lui aussi, ils vont pouvoir arranger quelque chose. Donc ça marche. Ah tiens, et alors on voit émerger le Christ comme une divinité parmi d'autres, puis une divinité quand même un peu plus efficace que les autres, puis finalement un vrai dieu, ah tiens, c'est intéressant, mais il y en a qui continuent. Alors quand ça marche pas, ils disent non, alors là, il m'a trompé, celui-là, cette espèce de juif, je veux même pas en entendre parler. Et puis, petit à petit, on le voit émerger, et alors se pose la question de la nature, est-ce qu'il est complètement humain, est-ce qu'il est complètement divin, est-ce qu'il est moitié-moitié. Et puis là-dessus, et parallèlement à ça, il y a des personnages comme Rémigius, ou Médard.
C'est Médard, oui.
Qui est totalement méconnu. Enfin, moi, dont j'ignore absolument tout. Pour moi, Médard, c'est une histoire de parapluie. Et là, on découvre un saint extraordinaire, un personnage avec une autorité qui était adorée, qui était. Et surtout, c'est plein de viande ce que vous écrivez, quoi. C'est charnel, c'est pas du tout désincarné comme les bouquins d'histoire souvent on les entend parler, on les entend s'engueuler, on voit leur drame, on voit le drame du père qui va être obligé de tuer son fils parce qu'il devient vraiment trop dissipé et qu'il pose des gros problèmes, et c'est pas un règlement de compte familial, il y va de l'intérêt supérieur de ce qui est pas encore une nation.
Et il y a une évolution, c'est pour ça que on peut parler d'autobiographie d'un peuple, c'est parce que à travers les personnages, au fond, il y a un personnage par génération
qui
succède, qui se renvoie, donc de génération en génération, on voit évoluer petit à petit, si vous voulez, l'âme d'un peuple.
On voit se créer, littéralement.
Se créer petit à petit. Et vous avez raison de dire se créer, parce que effectivement, vous parlez de peuple, on parle de nation, et la nation apparaît quand le peuple crée ses propres mythes. Si vous voulez. Et ça, c'est en gros la période carolingienne, celui qui apparaît à ce moment-là, car à partir d'un moment, les Francs, qui au départ étaient un peuple, donc on va dire toute la période mérovingienne, se sont ont espéré essentiellement s'intégrer à la romanité.
Oui, ça aussi, c'est
le christianisme, n'est-ce pas,
qu'on n'a pas présent à l'esprit, c'est que, en fait, leur grande aspiration, c'est d'être connus comme des civilisés. Et pour eux, les civilisés, c'est d'être. Alors, on sent que c'est des sauvages, enfin, ils sont très proches de la sauvagerie, mais ils ont une telle aspiration à la civilisation, qu'ils veulent devenir des Romains. Alors, il y a ceux qui réussissent trop bien, et qui perdent donc tout contact avec leurs racines, avec leur milieu.
Exactement.
Ils sont rejetés par le milieu.
Exactement.
Et tout le travail consiste à créer cette espèce d'équilibre entre ce qu'on était, ce qu'on veut devenir. C'est parfaitement raconté.
C'est une période, effectivement, intéressante, dans le sens que, vous le dites bien, les Francs, si vous voulez, il y a eu toute une période pendant laquelle il y a eu des généraux francs, bien avant Clovis. Qui ont fait carrière dans l'armée romaine.
Ça commence comme ça, d'ailleurs.
Exactement.
Le premier personnage est magnifique. Alors, vraiment splendide. Tite, ce général romain qui est en fait un franc et qui manque de devenir empereur. On sent que ça passe très près et qui trahit par celui, par un de ceux qui est formé, par un de ses...
Alors, sur la cruauté, sur la sauvagerie, si vous voulez, je voudrais... bon, comme je me suis tellement attaché à ce peuple, je vais
ah, mais c'est pas forcément un défaut.
Un défaut. Mais je vais quand même prendre la vue, savoir parce qu'on a tellement exagéré, si vous voulez, cet aspect des choses, et on a tellement exagéré encore au 19e siècle pour des raisons idéologiques, je crois, où on a voulu en faire des barbares. Je crois, il faut bien se penser que l'époque romaine, qui a préparé, n'était loin d'une époque extrêmement tendre.
Le cirque, une distraction.
Absolument.
C'était pas le loft.
C'était exactement. C'était donc
moins dégoûtant.
Crever les yeux des gens, c'était une peine qui était considérée comme pour un péché véniel.
Les mentalités étaient différentes, puisque, enfin, quand je dis mentalité différente, c'est une sottise, un truisme, mais les gens préféraient, par exemple, être exécutés plutôt qu'exilés. Ça, c'est quelque chose qui montre que la mort était une chose secondaire par rapport à l'opprobre, par rapport à l'ostracisme.
Alors, pour en venir à la civilisation, je crois qu'il y a un aspect qui est aussi tout à fait fondamental et complètement méconnu, ou en tout cas très très peu souligné, c'est que le christianisme de l'Europe, c'est les Francs. C'est d'abord la conversion des Francs au christianisme, qui est un élément fondamental et qui se fait progressivement, parce que le baptême de Clovis, bien évidemment, c'est une affaire extrêmement médiatique, comme on dirait aujourd'hui, mais en profondeur,
la façon dont il le raconte à travers vous, on voit bien qu'il s'est réellement posé des questions.
Ce n'est pas purement politique, ce n'est pas politique, ce que vous lui faites dire montre
un homme qui réfléchit, qui considère son épouse, qui dit, mais elle voudrait, mais moi, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, qui est-ce?
Je crois que là-dessus, les historiens sont assez d'accord pour dire que c'était une conversion, bon, effectivement, qu'il y avait des aspects politiques, mais ce n'était, enfin, il y a une conversion de profonde, je crois qu'il a incontestablement...
Il y a l'importance de Saint-Rémy.
Saint-Rémy a joué un rôle, et plus encore, peut-être, le fameux va, comme on dit dans le Nord, qui était un peu son confident, si vous voulez, qui était, alors, gros, chose
et qui l'envoie promener vers les relations, c'est drôle.
Chose très importante, le fameux Saint-Va, n'est-ce pas, est un franc, et c'est très important aussi, il y a l'aspect de race, si vous voulez, de communauté. Il est certain qu'on se fait plus facilement convertir par quelqu'un de son propre peuple que quelqu'un d'extérieur. Il y a aussi cet aspect des choses, si vous voulez, entre les Romains, ce qu'on appelle aujourd'hui les Gaulois, parce que là aussi on a inversé un peu les choses. Les Gaulois n'existent plus du tout à cette époque-là, on ne parle plus des Gaulois. Rémy est un Romain, n'est-ce pas, est un Romain, et il se considère comme un Romain depuis plusieurs siècles. Il y a belle lurette que la Gaule est romanisée, n'est-ce pas.
Moi je me suis vraiment régalé, et je voudrais faire partager cet enthousiasme aux auditeurs, parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Vous regardez,
c'est un ricanement. Non, tous nos auditeurs vont rire, parce qu'avec votre permission, je vais lire les 5 premières lignes de ce qu'on appelle la 4e de couverture du volume qui s'appelle Le Royaume de Soissons. Et voilà ce qu'il en est. 5e siècle de notre ère. Grande civilisation qui domine l'Occident depuis plus d'un millénaire s'effondre, victime de ses classes dirigeantes, corrompus et incapables, d'un régime bureaucratique, d'une fiscalité aberrante, de l'entrée sur son sol d'une multitude d'immigrés.
Là, je trouve que c'est une conclusion formidable. Je voulais citer cette phrase en commençant, puis je suis passé à autre chose, mais voilà.
Alors,
une raison pour laquelle il faut lire ce livre.
Et une troisième raison, c'est que revoilà nos amis niçois de France Europe Édition. Est-ce que je peux donner leur adresse internet pour tous nos auditeurs qui vont se précipiter sur leur catalogue internet? C'est France-Europe-editions.com.
Voilà. Lisez les deux livres de Jean-Pierre Bozette. Venez les acheter dimanche après-midi à la fête de Radio Courtoisie. Vous rencontrerez Jean-Pierre Bozette. Vous pourrez vous entretenir avec lui. Ses livres, c'est L'histoire du peuple franc. Le volume 1 s'appelle Le royaume de Soissons. Et le 2, Le palais de Quercy. Et le 2 est très beau aussi parce que le palais de Quercy, c'est quelque chose d'incroyable dont on ne soupçonnait même pas l'existence.
Absolument.
Enfin, c'était un bled dont personne n'a jamais entendu parler.
Exactement. C'est un bien. Qui existe.
Qui existe,
ouais. Oui. Se le dire.
Et c'est quand même là, c'est là que vous dites, c'est là que Charles Martel est mort.
Ah, en effet.
C'est là que Charlemagne est né. Enfin, c'est quand même. Mais c'est incroyable. Qui nous a appris l'histoire? Voilà. Moi, je vais téléphoner à mon ancien prof d'histoire. Je vais donc lui passer un sacré savon. Hein. Merci Jean-Pierre Boisette.
Merci à vous.
Histoire du peuple franc, paru à France Europe Édition et que vous trouverez dimanche à Eurosite. J'arrive pas. Eurosite.
Aussi,
juste en face de la gare de
la fête du livre de Radio Courtoisie.
Le bunker, monsieur, dame.
On n'aime pas le grand air à Radio Courtoisie. Hein. On est toujours dans les atmosphères
grand air,
confinées.
On est comme ça, on est un peu pervers.
Les catacombes, quoi. Ouais.
Autre livre dont je reçois l'auteur ce soir, Didier Pouilloude. Alors là, c'est un livre différent dans sa présentation. Ça fait partie de ces albums qu'on offre aux jeunes gens et aux moins jeunes, d'ailleurs. Ça s'appelle « Le grand livre des aventuriers des mers, pirates, flibustiers, boucaniers, corsaires ». Ça y est, on est parti. On est avec une couverture où on voit des pistoles. C'est des pistoles ou des... Une voile, un beau voilier. Naturellement, un pirate borgne. Parce que si les pirates étaient pas borgnes, on se demande ce qui serait. Mais ce que je dis, c'est un bouquin très sérieux qui va de l'époque des pirates illyriens, la plus haute antiquité.
Oui, c'est un panorama, si vous voulez, de ce que l'on appelle la piraterie. Avec, bien entendu, c'est un livre historique.
Voilà.
Je suis heureux quand même, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de me recevoir gentiment. C'est donc un livre...
Faites des beaux livres, on vous recevra facilement, vous savez.
Merci.
Beaux,
ouais. Un livre d'histoire, et en essayant de l'illustrer le plus possible, comme vous pouvez le remarquer, afin qu'il soit accessible aux jeunes qui, par l'intermédiaire de ce livre, auront enfin quelques notions d'histoire et de géographie supplémentaires, parce que à l'école, on en a peu, me semble-t-il.
Vous êtes marin, non ? Vous-même. Vous avez un maillot de marin.
Oui, j'ai un maillot de marin parce que je reviens tout droit de aventurier le festival de Saint-Malo, vous savez, qui est donc...
Il y a un uniforme là-bas, obligatoire.
Voilà, il y a un uniforme quasi obligatoire. Michel Lebris, qui dirige l'affaire, tient absolument à ce que les gens ressemblent à des marins.
Voilà, un sacré grand bonhomme aussi, Michel Lebris.
Oui, tout à fait.
Qui a fait découvrir... D'abord, il s'est soigné d'une très grave maladie qu'il avait, qui était la maladie que vous avez eue, vous aussi, Patrick, je crois.
Trop
de scomanie galopante.
Ah oui. Non, il était Mao, lui, je crois.
Il était Mao, bon, c'est encore pire, c'est une complication. Et alors, il a donc lancé ce festival de l'aventure, et du livre d'aventure, et il dirige des collections de romans d'aventure, enfin pas de romans, de livres, de voyages, de livres d'aventure. Il a fait redécouvrir Nicolas Bouvier, c'est un type qui a fait un travail formidable.
Merveilleux festival de Saint-Malo. Serge, une insiste de trois mots pour vous faire remarquer que nous atterrissons à Saint-Malo, nous venions de quitter Nice avec les éditions France Europe, nous étions peu auparavant à Toulouse avec Monsieur Cerbera, et encore avant à Liévin, près de Lille, avec le père Arguarche. Alors vous voyez, quand notre marquis est dans le studio, qu'il n'est pas en train, qu'il ne nous téléphone pas de l'Atlantique Sud, eh bien nous nous offrons un petit tour de France, mais très complet, c'est merveilleux, non ?
Ouais, c'est bien agréable. Alors, ce livre, cette passion pour les aventuriers, elle vous vient de votre petite enfance, non ?
Oui, en effet.
Pour les pirates, les corsaires, les flibustiers, les boucaniers.
En effet, elle me vient de ma petite enfance. J'ai eu la chance incroyable de passer ma petite enfance à Madagascar, et plus exactement au sud de Madagascar. Et la passion pour le sujet est née probablement d'une vision apocalyptique. En effet, environ à 35 km au sud de Tuléar, c'est-à-dire le sud-ouest de Madagascar, on a la baie de Saint-Augustin.
Mais c'est extraordinaire. Tout à l'heure, le Masqué nous disait qu'il avait été médecin à Tuléar pendant les années 50.
Bah, écoutez, c'est possible. Je suis arrivé là-bas en 1956.
Si vous avez fait une petite bronchite, vous avez dû le rencontrer.
À l'école primaire, à Tuléar, donc. Et donc la baie de Saint-Augustin, abondamment visitée par les pirates du XVIIe siècle notamment, et la vision apocalyptique, c'est les dunes qui étaient retournées par des gens qui étaient armés de pelles et de pioches pour rechercher un trésor, évidemment.
Des pistoles, des écus, des doublons.
Absolument, et un peu plus tard, c'était la même vision à l'île de la Réunion, à côté de Saint-Paul. Vous savez que la Buse est enterrée au cimetière marin de Saint-Paul, à côté de Saint-Denis, à côté de la Possession. Et là, c'est la même affaire. On avait des moyens un peu plus considérables à l'époque, donc c'était à coup de bulldozer. Apparemment, on n'a pas trouvé grand-chose à ce jour, mais je pense que les gens qui auraient trouvé quelque chose se sont bien gardés.
Oui,
probablement,
ils auraient forcément raconté leur
partager
l'inspecteur des impôts local.
De partager avec l'autorité. Laquelle autorité délivrait des lettres de marque aux fameux navigateurs afin que ceux-ci puissent, en toute légalité, pourchasser l'espagnol ou l'anglais selon le...
C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, finalement, parce que le percepteur, il a aussi une lettre de marque.
Absolument.
C'est moins rigolo, parce que les percepteurs n'ont pas de jambes de bois, ils ne sont pas bangs, mais à part ça, c'est quoi?
Ils sont bordés.
Pas de beau bateau.
Alors, je suis heureux de vous amener une petite distraction après ces discussions fort intéressantes, mais très sérieuses que vous aviez auparavant.
C'est surtout c'est un aliment du rêve.
Oui, c'est une affaire de rêve.
Pourquoi est-ce qu'on a cette passion, d'ailleurs, pour des gens qui n'ont pas autre chose que des voyous? Il faut bien reconnaître, quand même. Bon, simplement, au lieu de se balader à moto ou en voiture volée, ils ont des bateaux. Mais
voilà. Alors, le verbe grec peiran, donc d'où est tiré le mot de pirate, c'est littéralement celui qui entreprend, celui qui ose. Mmh. Alors, par extension, si vous voulez, bon, c'est celui qui entreprend une aventure maritime, une aventure sur les mers. Rien à voir, évidemment, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les pirates du net ou d'autres choses, à mon avis. Alors, c'est un drame shakespearien, si vous me permettez l'expression grandiloquente, qui se situe sur 3 siècles. L'unité de temps, c'est 3 siècles, 16, 17, 18e siècle. L'unité de lieu, eh bien, ce sont les mers du monde.
Mais pourtant, la piraterie contemporaine, la piraterie maritime contemporaine, elle existe, parce que Serge, je voudrais vous répondre que on s'attendrit et on admire les pirates du XVIIIe siècle, mais ceux d'aujourd'hui, on les trouve nettement moins mignons.
Bah oui, parce qu'ils sont plus dangereux pour nous.
Entre autres, le croisiériste qui m'a emmené à Sainte-Hélène. Hein.
Je crois que vous en êtes revenu quand même.
Aujourd'hui, on vole des Chris Craft à Saint-Martin pour emmener de la drogue à Haïti ou ailleurs, vous voyez, pour traverser l'île en île pour perdre les douaniers, ce qui relève.
Mais en mer de Chine, vous savez qu'il y a des cargos entiers qui sont braqués.
Oui, tout à fait. Bon, alors, permettez-moi de vous dire que d'après mes études, le terme de pirate est très peu approprié à ces gens. En effet, un pirate du XVIIe siècle, pour prendre le cœur du problème, c'est quelqu'un qui est lié communautairement à ses camarades. Et d'ailleurs, le terme de camarade est choisi volontairement, si vous voulez, parce que le camarade, étymologiquement, bon, c'est le voisin de chambre, c'est celui qui partage votre chambre, et les matelots, le terme également signifie ceux qui vont deux par deux. Bon, je ne pense pas qu'il y ait là de connotation freudienne, comme disait Freud tout à l'heure, mais c'est réel, c'est tout à fait réel.
Il y a évidemment une différence, on l'a expliqué 100 fois, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus, entre le corsaire, le pirate, le flibustier, le boucanier.
Oui, alors grosso modo, si vous voulez, bon, le pirate, c'est vraiment comme on l'a dit, celui qui entreprend sur la mer, mais il se distingue notamment du corsaire, la deuxième grande catégorie, dans le fait que le corsaire, lui, c'est quelqu'un qui est accrédité. C'est quelqu'un qui possède une lettre de marque, c'est-à-dire une autorisation de la part de l'autorité légale pour aller faire la course sur la mer. Je dirais que la distinction ici est très nette. L'un possède son permis de chasser, l'autre non.
C'est un braconnier.
L'autre, c'est un vrai braconnier qui est chassé par tout le monde.
Les braqueurs des aires de stationnement d'autoroute et les gendarmes. Ouais. Il y en a, ils font la même chose, mais il y en a qui ont le droit.
Oui, absolument. Il est à remarquer qu'à une époque où le téléphone portable n'existait pas, vous pouviez très bien vous embarquer à Saint-Malo avec votre lettre de marque et subitement dans l'océan Indien devenir un vrai pirate parce que
le conflit
conflit avait cessé entre la France et l'Angleterre ou l'Espagne, et puis vous continuiez quand même votre chasse et deveniez par le fait un pirate sans
savoir. Oui, mais enfin, comment voulez-vous le savoir une fois que vous êtes là-bas? Il n'y a pas de radio, donc
absolument.
Si les Anglais vous disent, si l'Anglais vous dit, mais attendez, on n'est plus en guerre, oui, c'est ça, chante Fifi.
Bah, écoutez, dans ces conditions, six mois plus tard, vous avez un navire qui vous croise et qui vous annonce la bonne ou la mauvaise nouvelle, selon les cas.
Quel est le personnage qui vous fascine le plus dans cette galerie? Lafitte
Eh bien, si vous me le permettez, le personnage, et puis c'est un clin d'œil en même temps, le personnage qui me fascine, c'est une femme.
Ah, comment elle s'appelait? Mary
Read.
Mary Read, c'est
Mary
ça.
Mary Read. Donc, c'est une personne qui naît dans la banlieue de Londres, vers, bien sûr, 1680. Qui est élevé par sa mère comme un garçon en souvenir d'un petit garçon disparu, qui s'engage dans les fantassins dans l'armée, enfin qui vit quand même une destinée absolument incroyable, qui finit par embarquer.
Et aujourd'hui, elle serait vice-présidente de l'association.
Qui rencontre Anne Bonny, qui embarque sur le bateau de Rackham le Rouge, Calico Jack.
Mais il savait que c'était une femme ou...
Ben écoutez, oui, puisque il y avait une liaison, en tout cas avec Anne Bonny. Anne Bonny étant la meilleure amie, l'amie. Donc, ce qui s'est passé, semble-t-il, c'est que Mary Read aurait avoué ses sentiments à quelqu'un qu'elle croyait être un garçon qui, en fait.
Ah oui, oui.
Vous êtes également une femme, voilà.
Vous écrivez d'ailleurs que. Vous dites, c'est à cette époque qu'elle rencontre Mary Read, qui, la prenant pour un homme, lui avoue ses sentiments.
Exact.
Point de suspension, elles resteront les meilleures amies du monde jusqu'au bout.
Eh bien, écoutez.
Ça laisse libre cours à toute imagination.
Voilà. C'est donc, en plus, ça, je m'empresse de citer cette phrase parce que ça montre qu'on peut, sans danger, offrir ce livre à des adolescents.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ils en savent probablement plus que Mary Read, d'ailleurs.
Ces choses-là, vous savez, doivent être joliment dites.
C'est le cas. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. On voit qu'il y a une espèce de fascination à travers les siècles pour cet univers, et qu'il y a des peintres, des graveurs, des dessinateurs, des illustrateurs.
Parce que cet univers a été très très peu décrit par la littérature, par l'écriture, si vous voulez, parce que, bien entendu, il n'y avait pas d'écrivain à bord d'un navire pirate. Seuls quelques auteurs ont pu écrire, rapporter des témoignages, encore faut-il dire que ceux-ci sont la plupart du temps suspects.
Et puis alors, il y a encore, comme dans le cas du livre de Jean-Pierre Boisette, il y a d'étonnantes résonances avec l'actualité. Il y a par exemple une image qui montre la flotte ottomane bloquant Marseille.
Oui, oui, oui.
Marseille, vous savez que la blague qu'on raconte, quelle est la première ville maghrébine qu'on traverse quand on fait le Paris-Dakar.
Ah, oui, c'est Marseille.
Et oui, quand vous parliez tout à l'heure de la mort à cette époque, à l'époque dont vous parlez mon prédécesseur, j'étais vraiment très intéressé par le thème parce que il faut bien dire que pour un pirate, la mort, ce n'est rien. Évidemment, on mutile pour un oui, pour un non, on se larde joyeusement à tout bout de champ. Et la mort, ce n'est rien. J'ai mis en tête d'un des chapitres. À chaque chapitre, il y a une petite phrase en exergue, une phrase d'Eschyle qui disait la mort est plus douce que la tyrannie. Vous voyez, ça me semble correspondre tout à fait à l'état d'esprit.
C'est une idée d'ailleurs qui a duré très très longtemps, que la mort est plus douce que la tyrannie, ou la mort est plus douce que la mort est plus douce que l'exil. Nos ancêtres n'avaient pas une espèce d'attachement à la vie. Ils avaient, peut-être parce que c'était plus précaire, peut-être parce que...
Vive à la muerte.
Aujourd'hui, on n'a pas d'attachement à la vie, on a peur de la mort. Ce n'est pas exactement la même chose.
Alors, et très beau papier, très beau, le, ah oui, très, très belle réalisation éditoriale.
C'est, oui, édition
c'est les éditions Orphie qui font ça.
Une édition ultramarine, ouais. C'est un éditeur qui a commencé.
J'ai pas trouvé le portrait du capitaine Haddock, mais enfin, c'est pas là.
Ah bah, il faut payer des droits tellement lourds.
Là, le, dans Tintin, c'est le Rackham le Rouge.
Qui, ah, descend Rackham le Rouge, oui.
Calico Jack. Avec en appendice, donc, des témoignages voilà. D'époque qui sont vraiment, vraiment,
parfois. Pièce d'archives mexicaines.
Extrêmement surprenant.
Raid sur Alvarado en 1651.
Ouais. Oui, paradoxalement, vous savez, les grandes épopées sanglantes sur les mers, etc., c'était vraiment rarissime. En fait, les grandes batailles sanglantes se sont passées à terre. Parce que les pirates se sont rendus compte relativement rapidement que le butin se faisait à terre oui. Sur les navires. Bon, très rapidement, les Espagnols ont compris que pour ramener l'or du Nouveau Monde, il fallait s'organiser en convoi. On voyait des convois d'une centaine oui. De navires qui traversaient l'Atlantique, sévèrement gardés, bien entendu. Donc il n'était plus question d'attaquer au petit bonheur la chance au milieu de l'Atlantique. Donc, on attaquait à terre.
Et puis, les mœurs étaient quand même... C'est curieux, le témoignage des lettres d'un aïeul qui est devenu ministre de la Marine. Non, il était amiral. C'est amiral Clouet.
Oh, pardon.
Georges Clouet. Et il est devenu ministre de la Marine. Il a été viré par Jules Ferry comme membre du complot des réactionnaires, ce qui est plutôt sympathique. Et il écrivait à son frère comment il avait arraisonné un pirate espagnol.
Oui.
Alors ça se passait à l'époque de Jules Ferry, donc c'est à la fin du 19e siècle. Dans les Antilles, il avait arraisonné un pirate espagnol. Et il n'avait pas assez d'hommes à bord, naturellement, pour mettre les Espagnols dans la cale et ramener le bateau. Alors donc, il a dit aux Espagnols, je vais vous mettre un officier à bord,
ah oui.
Et puis vous allez lui obéir, et ils ont suivi tranquillement.
Ah bah oui,
alors il raconte ça à son frère, j'ai la lettre, et il termine en disant, simplement, pourquoi est-ce qu'on nous fait faire ça à des Espagnols, on attend tellement de pouvoir le faire à des Anglais.
Ah, c'est magnifique.
Voilà, ça s'appelle, votre livre s'appelle Le Grand Livre des Aventuriers des Mers, Pirates, Flibustiers, Boucaniers et Corsaires, c'est vraiment un beau livre. Quel est le... Est-ce que vous avez trouvé la raison, parce que vous publiez toute une série de vignettes qui représentent le fameux pavillon noir. Quelle en est l'origine? Vous avez découvert ça?
Ben écoutez, à l'origine, c'est le pavillon rouge. Les Anglais l'appellent le flag, quelque chose comme
red
ça.
Flag, oui.
Donc le pavillon rouge comme le sang, qui est devenu noir, pas noir comme la mort, avec les tibias entrecroisés, les crânes. Et donc chacun a son propre pavillon. Chaque pirate a son propre pavillon.
Oui, on voit ça. Il y a Henry Avery, Jack Rackham, c'est celui qu'on connaît plus d'ailleurs, Bartholomew Roberts. Il y a Thomas Tew, Emmanuel Wine, Bartholomew Roberts, il y en a un autre. Il y a Barbe Noire, qui est assez rigolo parce que c'est un diable qui perce un cœur
avec les gouttes de sang.
Avec des trois gouttes de sang disposées en triangle. À mon avis, il devait être anti-maçon. Edouard Lowe, qui est un squelette rouge. Walter Kennedy, je ne sais pas si c'est la famille, et Christopher Condent, qui lui accumule les têtes de mort avec tibia croisée, il y en a trois. Alors.
Est-ce que vous connaissez un peu le droit maritime, monsieur Pouillot? J'étais il y a quelques années dans le port de Roscoff au départ d'une croisière. J'ai soutenu mes amis que le bateau voisin qui arborait un pavillon noir, nous étions en droit absolument de l'arraisonner, de nous en emparer, de le couler et de le garder pour nous. Est-ce que j'avais raison?
Et de tuer ses occupants?
Les occupants étaient absents, c'est pour ça que je les poussais beaucoup à raisonner le voisin.
Bon, écoutez, je ne sais absolument pas.
Mais, ça valait le coup d'essayer.
Si le drapeau était complètement noir...
Non, c'était un drapeau noir avec le crâne et les tibias entrecroisés.
À mon avis,
il n'y avait pas d'autres pavillons. Alors déjà, je crois que savoir que le pavillon national est obligatoire.
Obligatoire, bien sûr, mais en tout cas, ça fait... À mon avis, au moins mauvais goût.
Merci, merci beaucoup. Didier Pouillot, donc vous êtes dimanche après-midi, vous pourrez dédicacer, vous êtes avec nous Eurosite Austerlitz, vous pourrez dédicacer ce joli livre qui, à mon avis, fait un cadeau magnifique pour des jeunes gens. C'est très illustré.
Et le papier est très
vraiment,
agréable.
Oui, très agréable, très doux. Ouais. Beaucoup d'informations. Bien, alors je me suis fait sermonner par un auditeur qui dit on a appelé pendant pendant que le docteur Masqui parlait, on a posé des questions, on n'a pas les réponses. Je dois dire que, évidemment, c'est impossible de donner une consultation médicale par téléphone. Donc, on va vous lire, docteur, quelques questions.
Oui.
Vous répondez, je vous en prie, de la façon la plus succincte.
Oui.
Et puis, les auditeurs qui veulent en savoir plus, ils viennent vendredi soir, oui. 12 rue Saint-Joseph. Là, ils pourront vous voir, vous toucher, vous interroger.
Vous toucher.
Vous touchez localement et vous feront.
Est-ce qu'on peut annoncer la minute du marquis, Serge? Elle est programmée.
Et puis, oui.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui l'attendent.
Et juste après, on donnera la parole au marquis. Donc, vous avez 10 minutes, docteur, pour répondre aux questions. Victoria, s'il vous plaît, posez les questions. Au lieu de faire du charme Didier Pouillaud, sous pas dire que c'est un grand gaillard bronzé.
D'avant.
Bon, alors, un auditeur vous dit merci pour votre combat que j'ai connu par la vie claire, la fraye, il y a 40 ans.
Oui.
Et sa question est, la maladie de Parkinson est-elle concernée par la pollution électromagnétique?
Moi, je ne l'ai jamais considérée comme maladie pouvant être... Mais elle figure malgré tout dans les complications de l'électrocution. Mais je n'ai jamais, moi, essayé de soigner un Parkinson. Je l'ai soigné uniquement les rhumatisants et les personnes atteintes de sclérose en plaques.
Une question pratique. À quelle heure la réunion vendredi 3 juin au Cercle Saint-Paul?
À 20h.
20h, 12 rue Saint-Paul.
Et vous ne savez pas jusqu'à quelle heure?
12 rue Saint-Joseph.
Ça dépend
si vous voulez, c'est jusqu'à 14 heures.
Généralement,
ça sera les
12 rue Saint-Joseph. Paris, 2e.
12 rue Saint-Joseph, excusez-moi.
Métro Saint-Joseph.
Tel qu'on connaît ces saints, tel qu'on les honore.
Alors, pouvez-vous nous dire comment. Merci. Comment on peut trouver votre livre, Guéri par mes malades, édité en 69.
Secouru par mes malades. Il y avait eu 76, première édition, qui a été épuisée. Et deuxième édition, en 84, qui est également épuisée, qui avait été édité par un petit éditeur du Havre, parce que j'avais également eu à cette époque beaucoup de mal à trouver un éditeur à Paris.
Mais vous n'en avez plus, vous?
Mais
il était plus étonnant.
Non, mais celui que j'ai, il est beaucoup plus complet.
Avez-vous des élèves ou disciples à consulter en région parisienne?
Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'élèves, étant donné que ça consiste essentiellement à donner des conseils, et je remplace le port de la ceinture par des applications d'argile. Alors donc, il n'y a pas du tout d'élèves à former. N'importe qui peut faire le traitement.
Dans quels aliments trouve-t-on les vitamines A et D?
Ah, moi, je suis pas du tout porté sur les... C'est la personne qui était après moi qui était spécialiste de l'alimentation.
Travailler et vivre auprès des transformateurs, est-ce dangereux?
Mais bien sûr, c'est dangereux. Mais là, il faut alors demander à un géobiologue. Ce sont des gens qui sont spécialisés, qui ont des appareils pour mesurer les... Vous le savez,
le rayonnement non ionisant.
Se mettre à la masse peut-il combattre l'insomnie?
Mais c'est très mauvais naturellement de dormir avec des vêtements en nylon qui vous font de l'électricité. Le mieux, c'est de faire une douche et effectivement, se mettre pieds nus sur le sol, c'est
à condition de ne pas sur une moquette synthétique.
Voilà, bien sûr. Mais je le dis sans arrêt aux personnes avec lesquelles, vous savez, ça fait près de 40 ans que je raconte la même chose, donc passez-vous les mains sous l'eau. Vous ouvrez le robinet.
La question suivante était, le fait de faire couler de l'eau sur les avant-bras élimine-t-il
pas uniquement sur les avant-bras, sur le bout des doigts.
Statique.
C'est dès qu'on est avec l'eau courante, on est à la masse.
Et ça c'est souverain contre certains mots.
C'est l'inverse de ce que l'on fait quand on ne veut pas être électrocuté. Si on ne veut pas être électrocuté, on met des chaussures, on se met le caoutchouc. Donc dès que vous êtes dans l'eau, dès que vous avez les mains ou les pieds, vous êtes à la masse.
Le fait d'habiter à quelques mètres. Le fait d'habiter à quelques mètres sous une antenne relais téléphonique peut-il générer ou aggraver des migraines?
Mais je pense que c'est le propre un petit peu de ces choses-là, de cette lutte qui est en train de se faire depuis quelques années entre les opérateurs et les personnes qui... Je vous dis, j'ai lu à la fin que ceux qui, en France, étaient les deux, Santini et Le Russe, qui font des études, ont été vraiment écartés par le ministère de la Santé.
Vous savez, on a une auditrice qui a été victime, qui est victime de ce genre de problème. Elle a fait venir un expert. L'expert a établi qu'il y avait effectivement quelque chose. Et puis, elle a eu besoin d'une deuxième expertise. L'expert lui a dit non, terminé, je ne fais plus.
Ah oui. Oui, parce qu'elle a été menacée, peut-être. Je ne sais pas.
Ouais, c'est évident.
C'est évident.
Donnez-nous une petite explication. La lumière est-elle aussi constituée d'ondes électromagnétiques?
Oui, bien sûr, c'est le spectre électromagnétique. Si vous voulez, dans mon livre, je raconte naturellement mon histoire, mais qui n'est pas le total. Comme je l'appelle combat pour une idée, pour bien montrer un petit peu le combat que j'ai mené. Mais dans mon livre, les trois quarts du bouquin, c'est les explications sur la pollution électromagnétique. Et justement, il y a quatre chapitres où j'explique ce que c'est que l'électricité, comment les hommes sont arrivés à créer le courant électromagnétique. Il y a tout un chapitre sur les ondes, avec les spectres électromagnétiques, les ondes hertziennes. Ce sont des choses, si vous voulez, que j'ai moi-même découvert, parce que je vous dis tout de suite, je suis pas un scientifique. J'ai fait médecine, j'aurais jamais pu faire médecine maintenant, étant donné que j'ai fait médecine avec un bac philo-lettres. Alors vous voyez un petit peu, ce sont des choses que j'ai moi-même découvert au fur et à mesure des connaissances. Et puis c'était un phénomène qui n'était pas connu, tout au moins qui n'était pas étudié. Moi, c'est au cours des 30 dernières années que peu à peu j'ai découvert ces choses-là et qu'il y a eu des publications qui fait que je pourrais parler pendant des heures.
Est-ce qu'on pourrait vous dire de plus méchant, docteur, c'est que vous êtes un empirique, mais pourquoi
un empirique.
Pourquoi pur. Vous avoir, mais c'est pas une insulte, quoi. Pourquoi vous avoir persécuté de cette façon? Parce qu'après tout, l'empirisme, ben, est-ce qu'il n'est pas à l'origine de beaucoup de découvertes?
Attendez. Je le mets, si vous lisez mon livre, je dis la différence entre l'empirisme et la science. L'empirisme, c'est les constatations sans les explications. Et la science, c'est les explications de choses que l'on constate. Mais bien sûr que je suis un empirique. Et je m'étonne d'ailleurs, toujours, encore maintenant, que ce soit moi qui ai eu cette idée. Comment... c'est vrai. Oh,
mais vous voulez pas demander explication, mais je vous assure qu'elle est.
Non.
Vous avez été choisi par un ange gardien qui s'est dit, tiens...
Non, peut-être,
voilà,
bien sûr,
de valeur,
non, je suis
rendu
de ça très croyant. Non.
Bah, alors.
D'accord, mais... c'est un acupuncteur qui aurait dû avoir ces idées, qui passe sa journée à mettre des aiguilles pour régulariser l'influx nerveux. Mais comme l'acupuncture a été inventée il y a des milliers d'années, ça n'existait pas, la pollution électromagnétique. Alors, je voyais souvent des malades qui venaient me voir après d'avoir vu des acupuncteurs. Bon. C'est très bien d'avoir un acupuncteur, mais dit, est-ce que l'acupuncteur vous a dit de supprimer les vêtements en synthétique et d'éviter les chaussures à semelles caoutchouc? Ah, il me dit non, mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Parce que s'il se remet les vêtements en nylon et s'il remet les vêtements en caoutchouc, au bout de quelques heures, ça y est, c'est encore un nouveau... Donc, je le dis toujours, mais je le disais à chaque consultation. Prenez ma ceinture, foutez-la à la première poubelle que vous voyez, mais prenez un billet d'avion et allez vivre à poil dans une île déserte, baignez-vous. Voilà le meilleur des traitements. Mais c'est vrai, ces maladies n'existent pas dans ces pays.
C'est y a pas ce qu'ils vont chercher des ennuis. Vous rendez compte des conseils que vous donnez aux gens? Mais oui. Pas que la moitié de la France se fout à poil et va vivre dans des îles désertes.
C'est pas désagréable d'être à poil. De toute façon, on est toujours à poil à la naissance, je le redis.
Dans mon quartier, nous dit cet auditeur, je connais un homme qui a transformé la maison de sa mère en cage de Faraday.
Ah oui, je voulais
depuis, elle
question.
Va beaucoup mieux.
La cage de Faraday, c'est une protection.
Oui, c'est une protection, bien sûr, mais...
Mais on peut pas regarder la télé.
Ah, donc on peut pas vivre dans une cage de Faraday en permanence.
Les pilotes d'avion portent un casque radio en permanence sur les oreilles. On n'a jamais repéré d'anomalie. Comment ça se fait-il?
Ah, mais c'est pas la même chose. Mais je vous dis, les pilotes d'avion, ils ont des avions justement qui sont faits pour être là-bas.
C'est pas dit d'ailleurs qu'on n'a jamais rien repéré.
Ah oui, on a peut-être. Il y a un fait malgré tout, c'est que quand vous prenez un avion, moi je suis monté hier de Nice, et bien la première des choses que dit l'hôtesse de l'air, supprimer, arrêter les portables.
Ah bah oui.
Alors c'est pas pour les passagers, c'est uniquement pour les appareils électromagnétiques.
De... Oui, si ça détraque les appareils.
C'est interdit dans les hôpitaux, vous avez les pictogrammes interdits. Voilà. Oh, mais il y a beaucoup de questions.
Oui, mais on va être obligé d'arrêter parce que...
Il est pas 50.
Si, alors, c'est impossible. J'ai remarqué que nos auditeurs sont passionnés par les sujets médicaux. Hein,
il donne un renseignement, celui-là, il dit les chariots dans les supermarchés donnent aussi des surcharges électriques car ils sont montés sur des roues en caoutchouc.
Bien sûr, mais oui, mais ils n'ont qu'à mettre la petite chaîne qui pend derrière. Et puis il a qu'à marcher pieds nus. Il a qu'à
marcher. On vous voit vendredi. Je le rappelle, vendredi soir, 12 rue Saint-Joseph, conférence. Alors l'entrée est gratuite, la sortie est payante. C'est-à-dire, non, c'est ce que j'explique tout simplement, c'est la sortie payante, c'est une façon de parler.
Non, l'entrée
le docteur
Masky
ne vous prendra pas d'honoraires, mais les gens qui nous prêtent la salle sont peut-être contents d'avoir de quoi acheter un peu de peinture pour.
J'ai pas répondu à toutes les questions. Non. Mais dites-vous bien que dans ce livre, je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées par les malades, par toutes les questions que je me suis posées. Donc je ne peux pas en dire plus que dans ce livre. C'est le fruit de 30 années d'expérience. Et je donne des conseils qui sont très simples à suivre.
Vendredi, on insistera un peu plus sur la.
J'ai beaucoup de documents
en plaque. Il se passe un phénomène électromagnétique étrange depuis qu'on est là. Moi, j'ai l'impression que c'est le radiateur qui fait de la radio. C'est très curieux. On entend des taxis à travers une espèce de pas de radiateur mais de haut-parleurs bizarres.
Mais j'avais commandé un polymètre. J'avais commandé un polymètre qui ne m'a pas été parce qu'ils étaient en rupture. Mais vous avez des petits appareils maintenant qui permettent justement de mesurer comme des compteurs Geiger.
Donc vendredi 20h, 12 rue Saint-Joseph. Samedi 16h.
Non, de 15h à
18h. 15h.
6 rue du Petit Pont.
6 rue du Petit Pont. Et dimanche.
Eurosite Austerlitz.
Eurosite Austerlitz. Vous rencontrerez le docteur Masky et vous pourrez voir ce que donne un homme en pleine santé à 77 ans. Je suis quand même abasourdi là. Merci docteur.
Et ce même jour, samedi de 4 juin, de 16h à 18h30, Henri de Fersan. Dédicacera ma libre parole.
Ah oui, celui-là, tiens, je
et Jean-Pascal Cerbera dédicacera Diogène, la cynisme et la grâce, et le docteur, donc, combat pour la pollution.
Moi, j'ai une annonce à faire.
Allez-y.
Non, parce que j'ai été parfois un peu désagréable avec
Marquis d'Olmeta.
Quelqu'un, et je vais me rattraper, parce que j'ai été désagréable, parce que ce qui avait été organisé ne me plaisait pas. Mais voilà, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Hélène, et sa femme, qui est une descendante de Toulouse-Lautrec, chante. Et on l'a surnommée la nouvelle dame de chez Maxim's. Alors, elle s'appelle Véronique Fourcade-Hélène, elle est soprano, elle est accompagnée au piano par David Berdery. Et le samedi 25 juin 2005 à 20h30, il y aura chez Cardin, mais Maxime, à l'espace Cardin, pas chez Maxime, à l'espace Pierre Cardin, 1 avenue Gabriel. Elle chante, c'est une galerie de portraits haut en couleur, où la gouaille d'Yvette Gilbert, le lyrisme d'Yvonne Printemps, la poésie du chat noir sont réunis dans ce, j'aime pas le mot one man show, mais enfin dans ce one woman show, chanté par l'arrière-petite cousine du peintre Toulouse-Lautrec. Location 01 42 65 30 47. 30 euros.
Ça se passe où quand, quel jour vous avez...
Alors, le 25 juin 2005 à 20h30 à l'espace Pierre Cardin à avenue Gabriel.
Oh oui, tiens.
Serge, une question personnelle. Est-ce que votre procès aura toujours lieu demain jeudi? Oui. Souhaitez-vous que l'on vienne vous soutenir?
Je voulais vous demander l'heure.
Si vous voulez vous amuser, ce sera à partir de 13h30. On va vous amuser, savoir ce qui se passe. Bon. À partir de 13h30 à la 17e chambre correctionnelle où je serai une fois plus fustigé pour mes mauvaises manières.
Voilà, nous y seront.
Est-ce que j'ai volé personne, je n'ai violé personne, mais j'ai simplement dit ce que je pense, et ça.
À quel propos?
Dans la République. À propos de bottes, tiens.
Ah
et ça, dans la République. La République chiracienne, c'est très 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 mal de dire ce qu'on pense.
Bien sûr.
Surtout quand il s'agit.
Je suppose que ma seconde est terminée, non? Oui.
Non, vous avez, je voulais dire encore.
Non, je ne sais pas, je croyais que vous vouliez me poser une question, puisque non.
Eh bien alors.
La minute du marquis était bien brève.
Elle était brève,
oui.
Je suis désolé d'avoir préféré donner la parole au docteur Masky, je ne le ferai plus.
C'est promis.
Oui, c'est promis. Merci de nous avoir entendus. Rendez-vous donc soit vendredi soir. Il me fait peur en plus. Il me fait peur, moi. Soit vendredi soir.
Vous m'accusez d'avoir perturbé votre émission.
Ah non, pas du tout, docteur.
On n'a pas besoin de vous.
Non, on n'a pas besoin de vous. Il se débrouille très bien tout seul.
Ah non, oui. Donc soit vendredi soir, 12 rue Saint-Joseph, soit samedi à la librairie France Livre. Et naturellement, soit dimanche, pour cette grande fête du livre, qui est l'événement le plus considérable de l'édition française en France. Hein. C'est absolument
indiscutable. Vous ne dédicacez pas demain à la 17e chambre, non?
Non, c'est
à 13h30 à la 17e.
C'était en 71, 74, 78.
Un affreux raciste expliquait ses motifs d'écrire des choses qui sont mal.
Mal.
Je vous dis à demain, ou à vendredi, ou à samedi, ou à dimanche, et en tout cas, la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Et merci de m'avoir reçu.
Merci Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz, 6 à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er juin 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 2, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Notre gloire est immortelle, volontaire et officier blanc, et votre âme.